facile que la dernière fois, mais ça va être plus fouillé. Enfin, je vous ai fait un plan. Il y a trois pages, c'est la première fois. Et elles sont sur des feuilles séparées parce que la principale imprimante était en panne, comme dans les toutes entreprises qui se respectent. Et en plus, c'est un peu cafouilleux, mais enfin, on arrive à lire. Alors, donc, on a vu deux cafés-cafés pour mettre en place qu'est-ce que c'est que l'apologétique et qu'est-ce que c'est que la crédibilité. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour les cafés-cafés qui suivent, on s'interroge sur, donc, dans l'apologétique, on a bien défini ce que c'était que la révélation, si elle était possible, si elle était convenable, et si elle avait lieu, comment on pouvait reconnaître qu'elle était crédible ou que c'était du bidon. Parce qu'il y a beaucoup de révélations qui se proposent. L'autre jour, j'étais à la gare là, avec un cardinal, figurez-vous, qui avait, parce qu'il y avait une grève, donc ça tombait bien, c'était le même train que lui, donc j'ai pu le driver un peu, on mangeait un, je sais pas quoi, un truc avec du chocolat, du fromage, vaguement chaud. Et il y avait une jeune fille qui m'a interrogé, donc étudiante en sciences biologiques, et alors qui n'était pas chrétienne, pas baptisée, mais qui cherchait, et qui était troublée par le fait qu'il y a beaucoup de révélations qui sont concurrentes. Alors la crédibilité, on l'a vu la dernière fois, nous permet de discerner celle qui a des titres à la raison. Il est raisonnable de donner mon acquiescement à une révélation, mais là, évidemment, une fois que j'ai dit que c'est raisonnable, c'est la grâce qui va faire le travail après. Alors maintenant, on va voir, est-ce que cette révélation a eu lieu? Donc ce soir, on voit l'historicité des évangiles, plus généralement tout le Nouveau Testament. La prochaine fois, donc on va essayer de répondre, les évangiles sont-ils crédibles? La réponse est oui, mais on va essayer de l'argumenter, bien sûr, et de l'argumenter à partir de la raison. La troisième page, il y a la doctrine de l'Église, mais je la réserve à la fin pour qu'on commence bien par le côté raisonnable. Ensuite, en début janvier, on verra si les prophéties de l'Ancien Testament prouvent la messianité de Jésus. En février, si les miracles prouvent sa divinité. Ensuite, on verra en mars si la doctrine, l'élévation de la doctrine est une confirmation de son caractère divin. Et le dernier café-café que je ferai sera sur la résurrection comme preuve décisive de la mission du Christ. Donc vous voyez, c'est des choses plus factuelles. Alors moi, ça m'oblige à me mettre dans toute une littérature. Et je travaille comme un nègre depuis un bon bout de temps là-dessus pour ce petit papier. Parce que c'est pas trop mon secteur. Enfin, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup l'histoire et les langues. Donc je suis assez à l'aise. Mais mon domaine est un peu plus spéculatif. Enfin, je pense que vous aurez au moins le résumé là. Et voilà, vous pourrez cogiter et vous pourrez le présenter à votre vicaire progressiste qui dira que c'est tout faux et que je suis anticonciliaire. Sans tout qui est faux, mais enfin, il dira peut-être ça. Bon, l'exemple étant à moitié pris, pas tout à fait au hasard. Alors, on va progresser le texte, hein, puisqu'il s'agit d'un texte, le Nouveau Testament sont des textes, spécialement l'Évangile. On focalise sur l'Évangile, mais il y a quand même, si vous voulez, une toile de fond qui est tout le Nouveau Testament, à savoir les Épîtres et l'Apocalypse. Bon, le texte, d'où est-ce qu'il sort, est-ce qu'il est fiable, hein. Ensuite, les témoignages, est-ce qu'il y a des gens, chez les chrétiens et chez les autres, qui témoigne d'un bidule, d'un truc qui s'est passé, qui correspond à peu près au texte. Oui ou non? Bon. Et ensuite, troisième point, alors ce sera plus long, est-ce que ce texte qui existe avec une bonne qualité, on va le voir, et qui a des témoins chrétiens et non chrétiens, et qu'il a une valeur historique? Alors là, il y aura deux types de preuves, je ne sais pas si on aura le temps de les faire en détail, parce que c'est une matière très très ample avec une immense littérature. Hein. Donc moi, je suis resté sur les lignes de crête, en m'inspirant de travaux un peu plus synthétiques, mais il y a une énorme littérature, peut-être qu'au dernier cours je donnerai une bibliographie. Donc il y aura une preuve directe de la valeur historique par la nature même de l'histoire et une preuve indirecte en mettant chaos, technique, hein, les deux autres solutions possibles, la critique et le mythe. Et puis quatrième point, en quel sens ils sont historiques, et c'est là où on parlera plus spécifiquement de ce que nous dit l'Église. Voilà. Alors ça fait un petit conspectus, c'est utile d'avoir ça sous la main. J'ai à peu près tout vérifié, disons, les chiffres que j'avance sont des chiffres qui sont viables dans les années 60, 70, 80, donc c'est quand même relativement récent, et je me suis pas mal inspiré d'un livre assez remarquable, qui a quelques limites, évidemment, parce que, bon, les intellos trouvent toujours des limites dans la thèse du voisin, bon, mais c'est quand même un bon livre d'un journaliste et homme de lettres italien, Vittorio Messori, qui est connu parce qu'il a interviewé Ratzinger en 84, et qui a écrit plusieurs livres d'apologétique. Et celui-là s'appelle « Hypothèse sur Jésus ». Ça a été traduit dans beaucoup de langues. Et c'est un bon livre, sauf bon, il n'y a pas les références précises. Et puis, il y a une légère tendance un peu trop pascalienne au sens fidéiste du terme. Mais je dis ça pour avoir le plaisir de dire quelque chose sur un homme que j'apprécie beaucoup et dont j'ai ressenti un autre ouvrage, « La vérité a un nom et un visage ». Et écrit aussi des livres sur le suaire et des choses comme ça. Donc c'est un très beau livre qui a abouti, qui a été 10 ans de travail, qui a abouti à la conversion de l'agnostique Metzold. Vittorio Metzold. Alors je suis à peu près, et lui-même se met, ce qu'il a converti, c'est la lecture de Pascal, actualisée par Jean Guiton. Alors si Jean Guiton vous énerve, comme c'est un peu mon cas à moi sur certains trucs, il a quand même des grands côtés, et en particulier son livre Jésus, de 1961, qui a été une matrice pour le travail de Vittorio Metzold. En même temps que la lecture de Pascal. Donc vous voyez, quelqu'un qui est cultivé, c'est pas défendu de lui offrir à Noël, s'il sait lire, il y en a encore quelques-uns, la Pléiade ou un truc avec Pascal dedans. Et puis le livre de journée, La vérité de Pascal, par exemple. Bon, alors, on va attaquer la chose. Est-ce qu'il y a un bon texte? Ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a un bon texte du Nouveau Testament? À savoir, quand vous lisez la Bible, vous lisez des éditions qui sont traduites du grec et de l'hébreu, sauf au livre de Daniel qui n'existe qu'en chaldéen. Et donc, est-ce que ces textes originaux, entre guillemets, parce qu'évidemment on n'a pas les originaux, enfin les copies qui en ont été faites, sont fiables? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont assez proches de la date de l'original? Bon, première chose. Oui. Je vous donne un ordre d'idée. Juste avant de partir, j'étais à la bibliothèque, voir dans. On a évidemment à peu près toutes les œuvres d'Aristote, et j'ai essayé de vous prendre celles qu'on avait dans la collection Budet, vous savez, les choses un peu classiques, parce qu'au début, il y a un appareil critique où il donne les dates des manuscrits. Donc, je suis tombé sur les parties des animaux. Bon, tout le monde s'en fout des parties des animaux, mais il y a quand même des choses très intéressantes dans l'introduction, même du point de vue métaphysique. Et là-dedans, il dit, bon, les manuscrits fiables sur lesquels on travaille, c'est 12e, 13e, 15e siècle. C'est-à-dire, en gros, 1600 à 1800 ans après la mort d'Aristote. Il y a un manuscrit du 10e. Vous voyez, pour vous donner une idée. Donc, ouais. En fait, quand on dit qu'on a les originaux, les manuscrits, c'est des trucs que les moines ont recopiés quand ils ont fini de recopier la Bible et qu'ils avaient un peu de temps. C'est-à-dire, surtout à partir. On a des manuscrits de Virgile du 10e et des manuscrits d'Homère byzantin du 11e, vous voyez, ce genre de choses. C'est quand même assez tardif, sachant qu'Homère, c'est 8 siècles avant Jésus-Christ. Mais les gens ne disent pas, on n'a pas Homère, on a Homère quand même. D'autant plus qu'on vient de retrouver dans les sables d'Égypte quelques fragments d'Homère de 4 siècles avant Jésus-Christ, qui sont donc quand même 4 siècles après Homère. Alors maintenant, en comparaison, vous voyez, quand on étudie, je ne sais pas, par exemple, quand vous lisez La guerre des Gaules, vous lisez à partir d'un texte qui a un millénaire après la rédaction par César. Un millénaire. Bon, Virgile, 800 ans. Bon, et encore, c'est le record du monde, ça. Parce que Schiller, c'est 1500 ans. Je viens de le voir dans un truc où il parlait, bon, Cancure, j'ai vu, c'est à peu près la même chose. Enfin, bon, tout ça, c'est des dates, si vous voulez, de 800 à 1800 ans. Et bon, on a recopié, il n'y a pas de raison de recopier autre chose. Donc en gros, on a des textes, on dit que c'est le texte de l'auteur. Alors pour le Nouveau Testament, on a une attestation textuelle qui est la meilleure de toute l'histoire de la littérature antique. Ça, c'est donc un premier point. Est-ce que ceux de l'escalier m'entendent là? Oui. Ben, bravo. Un premier point très important. Il n'y a vraiment plus de place du tout là. Il y a une place là. Ici quand même, ça me ferait plaisir qu'il y en ait un de l'escalier qui monte là, comme dans l'évangile. Donc pendant qu'il monte, je continue. On a une attestation, là-bas, une attestation textuelle extraordinaire. Par exemple, le codex, alors parce qu'il y a l'histoire des codex et des papyrus, mais on ne peut pas tout expliquer. Les papyrus, c'est les plus anciens, mais c'est ce qui est le plus fragile. Ça se conserve dans les sables secs, c'est ça qu'on a trouvé en Égypte, en Palestine, à Qumran. Mais ce qui se conserve mieux, c'est les pots de chèvre qui coûtent plus cher. Donc on en a à partir du 3e siècle, 4e siècle, des livres anciens qu'on appelle des codices au pluriel. Et donc nous avons deux manuscrits pratiquement intégraux du Nouveau Testament qui datent de 300 ans après les événements. Le Sinaiticus, donc, qui a été découvert par un savant anglais qui est au musée de Londres actuellement, et le Vaticanus, qui, comme son nom l'indique, est au Vatican. Et là, vous avez une écriture. Alors, les spécialistes, vous savez qu'il y a ceux d'entre eux qui sont des littéraires vont peut-être trouver que je dis des choses un peu erronées. Enfin, en gros, je crois que ce que j'ai dit est à peu près juste, mais les littéraires ont peut-être encore plus de précision. Il y a une science particulière qui permet de dater avec une précision vraiment impressionnante, à 10, 15, 20 ans près, avec la forme de l'écriture, les manuscrits. Et non seulement en dehors des méthodes chimiques et d'autres méthodes archéologiques. Bon. Et donc, on sait que ces manuscrits intégraux du Nouveau Testament, ou de l'essentiel du Nouveau Testament, sont du 4e siècle. Mais non seulement nous avons ce texte-là, ça c'est record toute catégorie, 300 ans. Personne ne dit mieux, je vous signale tout de suite. Il faut commencer d'entrée de jeu, parce qu'en se mettant un peu dans ce travail-là, on s'aperçoit que l'évangile est le livre qui est le plus lu du monde, et le livre sur lequel on a dit le plus de conneries, quoi. Pour parler comme les légionnaires en vadrouille, quoi. Le plus de conneries, quoi, absolument. C'est hallucinant ce qu'on a pu dire. Je connais peu de gens qui font des thèses sur l'inexistence historique d'Aristote, quoi. Ou vraiment sur la différence totale de la pensée d'Aristote par rapport à ses manuscrits. J'en ai des grosses, d'accord. Personne n'a fait une thèse là-dessus, et heureusement. Bon, alors, on a des manuscrits. Alors là, c'est très intéressant, il y en a 66 manuscrits, numérotés, de 1 à 66 avec un petit P, et dont certains nous donnent des fragments extrêmement anciens de l'Ancien Testament. On a des versets, 6 ou 7 versets du chapitre 18e. Alors, je vous parle de celui qui est absolument incontesté. Il y a plusieurs versets du chapitre 18e de Saint Jean, qui sont donc dans le papyrus 66, dans papyrus 52, qui date certainement, quand je mets deux petits trucs comme ça veut dire à peu près, c'est que j'ai pas trouvé le machin qui fait comme ça, donc j'ai mis deux petits trucs qui se barrent, bon, 125, mais c'est même probablement avant. Donc nous avons des versets de Saint Jean, entre les versets 31 et 38, enfin, ça ne suit pas parce que c'est recto verso, du chapitre 18, qui sont écrits 15 à 25 ans après la mort de Saint Jean. Et ça n'existe nulle part ailleurs dans une autre littérature. Bon, alors là, je vais donner un truc qui est absolument incontesté. Maintenant, il y en a un autre, il y a d'autres fragments, encore après le papyrus 66, aussi incontesté, qui est 150 ou 200. Nous avons tous les premiers chapitres de Saint Jean, de 1 à 14, donc c'est pratiquement presque plus de la moitié de Saint Jean, avec 40 ou 50 ans de distance par rapport à la mort de l'auteur. Et alors, il y a une autre discussion aussi sur le... Vous savez qu'on a découvert une grotte à Qumran, par des circonstances un peu extraordinaires, qui a certainement été fermée avant 66, où il y a d'énormes parties de l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, on a pratiquement tout Isaïe. Mais l'Isaïe qu'on a trouvé à Qumran, qui est donc d'avant 66, correspond exactement au texte des Bibles chrétiennes. À part des nuances infimes. Et ça, c'est connu par les savants juifs ou agnostiques. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est vraiment une confirmation tout à fait extraordinaire du sérieux de notre tradition manuscrite. Et alors, dans Qumran, on aurait trouvé un fragment de Saint-Marc, le 7Q5, dans la 7e quelle, je crois que ça veut dire que c'est la 7e grotte ou la 5e grotte, le manuscrit numéro 7, bon, peu importe, alors c'est très discuté. On est en train de se focaliser là-dessus, mais certains sont pour l'authenticité, d'autres la discutent. J'ai posé la question à mon cardinal qui venait chez nous, cardinal jésuite, s'il vous plaît, faire des cours d'écriture sainte. Lui, il incline plutôt vers l'authenticité de ce manuscrit du 7Q5 de Saint-Marc, qui là serait d'avant 66, avant Jésus-Christ. Bon, mais ça, c'est encore discuté. Enfin, ce qui n'est pas discuté, c'est qu'on a des papyris extrêmement anciens et qu'on bat tous les records dans ce domaine-là. Alors maintenant, ces manuscrits donc que nous avons, on en a environ 13 000, donc 5 000 en grec, 4 680 exactement d'après Messori, enfin les chiffres progressent, on en trouve quelquefois, qui s'étalent du 1er au 6e siècle, qui correspondent exactement aux codices que nous avons, aux 53 codices, et aux papyri. Donc vous voyez, quand on fait une méthode régressive, on s'aperçoit que les textes sur lesquels on a établi les éditions anciennes du Moyen-Âge, 10e, 11e, 12e siècle, sont concordants entre eux, en grec, et correspondent avec les éléments les plus anciens. Plus vous remontez dans le temps, plus vous trouvez des bouts de ce que nous avons intégralement maintenant. Alors maintenant, on peut se demander, on remonte comme ça jusqu'au 2e siècle. Là, on est absolument certain, au point de vue de la critique sexuelle, que les textes que nous avons sont substantiellement, nous viennent au moins du milieu du 2e siècle, 150 par là. Alors maintenant, on peut dire, est-ce que ça n'a pas été corrompu entre 50 et 150 ? Eh bien, c'est impossible. Enfin, quand on dit impossible, c'est pas mathématiquement ou chimiquement impossible, C'est clair. Là, on est en train de faire une démonstration historique, je le dirai tout à l'heure, mais l'histoire, il y a une certitude qui est de l'ordre moral. On accumule des probabilités, et il n'y a pas de probabilité sérieuse de l'autre côté. Donc, c'est digne d'être approuvé. Mais après ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent rester dans le flou. Il ne s'agit pas de faire une démonstration mathématique, En histoire, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Napoléon a envahi la Russie à un moment donné. 1810, si je ne me trompe. Mais maintenant, le pourquoi, pourquoi il a envahi, il a fusillé le duc d'Angers en 1806, pourquoi ? On peut dire qu'il y a une partie qu'on discute, mais tous les historiens sont d'accord pour dire que le duc d'Angers a été fusillé par le gars qui tenait le pouvoir à ce moment-là. Bon, après on discute les motifs, quoi. Mais vous voyez, en histoire, c'est une science quand même très délicate parce que il y a toute une part, si vous voulez, vous avez les faits bruts, mais vous n'avez jamais, si vous voulez, un décalque chimique du fait. Hein, si vous dites Kennedy a été assassiné à Dallas, c'est déjà une certaine interprétation. Pour rester tout à fait dans la vérité, il faudrait dire un projectile qui pesait tant est arrivé dans le cœur d'un certain John Kennedy à tel moment, à tel endroit. Puis après, on va discuter si le mec il a été assassiné par un gars ou bien flingué par, je sais pas quoi, un complot, un truc, vous pouvez délirer là-dessus. Mais voyez, donc en histoire, il y a nécessairement même un article de journal par rapport à la dépêche de l'AFP, en supposant qu'elle soit objective, qu'on peut parfois supposer. Vous dites, bon, il élabore, il choisit, etc. Et pourtant, c'est pas faux, l'article nécessairement. Enfin, il y a une partie de faux, mais tout n'est pas faux. Bon, d'accord, donc voyez, on est dans ce domaine-là. Donc il est impossible avec ces critères-là que ça ait été falsifié. Tout simplement parce que le Nouveau Testament, donc, nous pouvons dire qu'il nous est parvenu dans une intégrité au moins substantielle. Et là, le fait de s'apercevoir que nos textes actuels concordent avec les anciens manuscrits de la Vulgate latine, donc la Vulgate c'est la forme latine, si vous voulez, qui sert un peu une valeur canonique, qui a été approuvée définitivement par le Concile de Trente, mais qui existait bien avant, qui a été revue par Saint Jérôme au 5e siècle. Bon, les textes latins, qui sont donc très importants parce qu'ils sont très répandus, bon, correspondent aux textes grecs d'avant, du 6e, 8e siècle, et aux manuscrits du 4e au 5e, et puis aux papyri du 2e. Bon. Et alors, avant, dans ces textes, dans cette concordance de textes, il y a beaucoup de variantes. Hein. Là, j'ai mis même le chiffre, 250 000 à peu près. Mais c'est des variantes qui, quelquefois, on voit très bien que c'est une erreur de copiste, ou bien des points-virgules, si vous voulez, il n'y a pas de points-virgules à l'époque, mais vous voyez, des choses qui touchent absolument pas, soit purement grammaticales, soit des équivalences, soit etc. Bon. Des choses qui touchent pas du tout au sens. Et des variantes qui touchent le sens, on en trouve 200. Mais il n'y en a qu'une quinzaine qui ont une importance quelconque. Donc il faut 15 objections, 15 difficultés qui existent pour le texte du Nouveau Testament. Là, vous me direz 15 difficultés qui concernent 150 mots sur 150 000. Ça fait 1 sur 1000. Et alors là, j'ai pas pu faire les vérifications, parce que pour parler une heure et quart ou une heure et demie, il n'y a pas quand même un an et demi de préparation. Mais il semble que pour les textes de l'Antiquité profane, on n'a pas l'équivalent. Il y a des pans entiers qui sont discutés bien plus que 1 pour 1000. Et en plus, l'un pour mille qui est difficultueux, on s'aperçoit que ça ne va pas induire de variation dans le dogme. Bon. Mais vous voyez, vous avez une concordance des sources textuelles qui est absolument unique, très peu de variations. Et imaginez qu'entre l'an, les plus anciens écrits sont de 52, ceux de Saint Paul, hein, peut-être qu'il y a des éléments écrits déjà qui vont aboutir aux évangiles dès l'an 40, par là, 45. Et imaginez qu'entre 50 et 150, on ait pu trafiquer les textes, et bien c'est impossible. Pour une raison très simple, c'est que les églises sont déjà en train de lutter contre les hérétiques à partir des textes, donc il faut qu'elles présentent des textes indubitables, et que ces églises, donc qui sont déjà, ne l'oublions pas, en 150, elles sont sur tout le pourtour du bassin méditerranéen. Il y a déjà un évêque à Lyon, hein, qui a connu un gars qui a connu Saint Jean. Pour vous dire un peu, c'est pas des trucs qu'on peut raconter des carambistouilles. Hein. Moi, ce qui s'est passé il y a 40 ans, mai 68, je m'en souviens à peu près quand même, pas en gros, hein, pas les petits détails. Mais bon, alors donc, je sais bien qu'il s'est passé quelque chose, il y a une espèce de psychédélisme généralisé qui est arrivé. Bon, après, on discute sur les interprétations, mais on ne va pas me faire dire qu'il n'y a rien eu. Alors, ces gars-là, dans le monde entier, il y avait des gars qui avaient vu les choses ou qui avaient vu des gars qui avaient vu. Et donc, c'était assez difficile de raconter des histoires parce qu'immédiatement, on disait, vous trafiquez. Et quand Saint Paul arrivait quelque part, eh bien, il y avait d'autres qui étaient déjà passés. Les diacres Philippe, par exemple, ou Saint-Pierre, où il s'était déjà écrit. Donc s'il commençait à raconter autre chose, on disait, attends, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas ce qu'on dit les apôtres. Et en plus, les apôtres de Jérusalem étaient la référence absolue. Enfin, on va le voir juste un peu après. Hein. Donc les églises luttent contre les hérétiques, et elles manifestent un culte rigoureux de la tradition. On voit, si on lit par exemple dans les épîtres de Saint-Paul, de vous lire quand même un petit passage, montrant le culte de la tradition. Première épître, je vous ai mis simplement l'abréviation des épîtres. Premier épître à Tite. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, mais celui que nous possédons dès le début. Bon, il écrit ça vers, imaginez, 45, 50, 55, depuis le début, c'est-à-dire depuis que ça s'est diffusé, et avec la poste impériale, les nouvelles pouvaient mettre de courtes semaines pour aller de Palestine à Rome, hein, et en Espagne. Donc, dès le début. Ensuite, toujours dans l'épître à Tite, demeure, celui qui ne demeure pas dans la doctrine du Christ ne possède pas Dieu. celui qui demeure dans la doctrine, c'est celui qui possède. Donc, vous voyez l'idée de demeurer dans une doctrine qu'il faut préserver, même si elle est casse-pieds. Et on va voir que c'est la preuve principale de l'historicité des évangiles, c'est qu'ils sont casse-pieds. Et malgré tout, on est obligé par eux et on n'y touche pas, même quand il y a plein de problèmes. Ensuite, 1 Thessaloniciens. Bon, la parole, vous l'avez accueillie, non pas comme une parole d'homme, etc. Cette parole reste active en vous. Vous vous êtes mis, frères, à imiter les églises de Dieu dans le Christ Jésus qui sont en Judée. Donc les Thessaloniciens, évangélisés par saint Paul, ont commencé à imiter et à répéter et à dire la même chose que ceux de Judée. D'ailleurs, il y avait des bateaux, ils se vérifiaient les uns les autres. Hein. Vous savez bien quelle prescription nous vous avons donnée, bon, ça continue comme ça. Si quelqu'un dans les Galates, par exemple, annonce un évangile différent, qu'il soit anathème. Bon, donc ils étaient complètement accros à la tradition. Ils n'étaient pas traditionnalistes au sens journalistique et débile du terme, mais ils étaient soumis à la règle de la doctrine, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. Et surtout, si quelqu'un vient dire quelque chose contre l'enseignement que vous avez reçu, chapitre 16 de Romains, évitez-les. Et après, il y a les règles, là je ne cite pas saint Jean, d'éviter les hérétiques et de même pas les saluer. Ce n'est pas très sympa, pas très convivial, mais pour éviter d'être contaminé, on disait, taillez la route quand vous voyez les hérétiques. Pourquoi ? Si le texte n'avait pas d'importance, on pourrait très bien s'entendre. Bon, donc ça montre que c'est absolument impossible. Le texte est primitif. Alors, le culte de la tradition est très ancien. Je vous ai cité Tite, etc. D'autres épîtres de saint Jean. Il y a aussi Ignace d'Antioche dans l'épître aux Éphésiens. Ignace d'Antioche, c'est évêque d'Antioche qui a été martyrisé à Rome et qui a parcouru les églises en leur envoyant des lettres magnifiques. C'est ce qu'on appelle les pères apostoliques. C'est des lettres absolument sublimes, mais qui sont écrites très proches des événements. Bon. Et puis, on voit que ce culte est manifesté par Paul, Jean, Pierre et Jude. Donc, vous voyez un ensemble de gens qui avaient connu le Christ ou des témoins directs et qui s'écrivaient les uns les autres. Bon. Et il apparaît également dans ce qu'on appelle les écrits non canoniques. Alors, il faut savoir qu'il y a une source absolument énorme, beaucoup plus grande que les évangiles et tout le Nouveau Testament, c'est les apocryphes et les écrits non canoniques. Les apocryphes sont des évangiles qui n'ont pas été retenus parce qu'ils n'étaient pas fiables. Tout n'est pas faux, mais ils étaient folklo, il y avait des trucs inventés, etc. Bon, et les apôtres ont dit ça marche pas. Hein. Et par contre, il y a d'autres gens sérieux qui ont des écrits non canoniques, par exemple la Didache, un des plus anciens, ou bien encore un autre, l'enseignement des apôtres. Didache, c'est l'enseignement des apôtres, mais il y a encore les Odes de Salomon, il y a encore un certain nombre d'écrits non canoniques, mais très sérieux, qui ont été lus dans les églises, mais qui ne venaient pas des apôtres. Et dans ces écrits, on soutient également ce culte de la tradition. Et Clément de Rome, donc c'est un pape qu'on cite au canon, hein, qui est un des premiers successeurs de Saint-Pierre, qui a écrit une lettre qu'on a appelée l'Épiphanie de la Primauté, dans laquelle justement il insiste sur l'importance de la tradition. Donc c'était, vous voyez, impossible que des écrits qui étaient diffusés très tôt, qui étaient d'abord, qui répercutaient, il ne faut pas oublier, on va le voir, que les écrits, en fait, ont condensé ou répercuté un enseignement oral. Donc très souvent, les gens qui écrivaient faisaient lire leurs lettres à des gens qui avaient déjà reçu cet enseignement oral. Donc tout le monde vérifiait tout le monde, et ça aurait été un tollé si on avait dit autre chose. Les textes sont connus, des évêques, des fidèles, et ils se méfiaient des apocryphes. Il y a une littérature apocryphe extrêmement abondante, du style apparition privée actuelle, si vous voulez, des gens qui sont spécialisés dans les apparitions, c'est des voix très jolies, très mignon, les petites Saintes Vierges avec des voiles roses bonbons, machin, des étoiles qui tournicotent, de la neige autour de la Sainte Vierge, puis du truc. Bon, ben, moi, personnellement, je m'en tamponne plutôt, enfin, de tous ces. Il y a des choses vraies dans les apparitions privées. Il y a des tonnes de choses fausses, ou inutiles. Tous les détails concrets de la vie de Jésus que les gens vont chercher chez Marie d'Agreda ou ailleurs. Enfin, moi, ça m'étouffe. S'il y avait eu ça, je ne serais jamais converti au catholicisme. Pour moi, c'est plutôt un obstacle. Et pour l'Église primitive, c'est comme ça. Les apocryphes avec le petit Jésus qui fait des petits oiseaux en pâte à modeler là de l'époque, et puis qui tape dans les doigts et puis les oiseaux s'envolent. Bon, ben, tout, il y a des tonnes de trucs comme ça. Tout a été éliminé, tout, absolument. Donc c'est vous dire que bon, s'il y avait un texte faux, c'est pas. Donc c'est pas possible que les textes que nous avons, qui sont attestés, on l'a vu, en 125 ou en 115, ou plus tard en 150, hein, aient été trafiqués entre 50 et 7 d'affaires. C'est impossible. Sinon, les autres se seraient tous mis à crier, il y aurait une troisième église, l'église des puristes du texte, contre l'église de machin, etc. Puis je vois que les juifs sont naturellement conservateurs. Regardez le mal qu'a eu saint Paul pour l'abandon des observances purement positives de Moïse, comme la circoncision. Il a fallu se battre pendant 30 ou 40 ans. Donc là, c'est évident, s'ils avaient prêté le flanc en racontant des choses fausses sur Jésus, ça passait pas. Hein, c'est pour ça, c'est bon que les théologiens soient un peu jaloux et s'envoient des exocètes par revue interposée quand il y a de l'ambiance. Maintenant, il n'y a plus d'ambiance, donc on s'envoie plus d'exocètes, parce que si on est arrivé à la pensée epsilon. Tous les mathématiciens savent qu'elle est voisine de zéro. Enfin, à l'Itan, statistiquement, on l'a de plus en plus. Donc, à l'époque où il y avait un peu de pêche, les jésuites et dominicains s'envoyaient des trucs, et l'abbé Berthaud courait de la grégorienne à l'angélique pour entendre la réponse du père de la taille au père Garrigou, et on se marrait bien. Et comme ça aussi, on vérifiait les trucs, et évidemment, on prenait un pot ensemble, même plus que ça, mais on vérifiait, donc, on pouvait pas sortir des trucs bizarres. C'est un gars qui sortait une théorie bizarre, un jésuite, 30 dominicains lui tombaient dessus, un dominicain, 30 jésuites, voilà. Donc c'est très utile d'avoir plusieurs ordres. Bon. Alors maintenant, voilà, le texte est bon. Si quelqu'un dit que le texte n'est pas bon, bah, qu'il me sorte un meilleur texte des trucs sur lesquels il est en train de faire les thèses de Plotin ou compagnie, ou même des fondateurs du bouddhisme ou de l'hindouisme. Hein. Le texte est bon, il est très très fiable, il est exceptionnellement bon. Personne n'a trouvé un texte plus meilleur. Bon. Alors maintenant, il y a des témoignages. Il n'y a pas que le texte. Il y a des témoignages chrétiens et non chrétiens. Alors, les événements donc, qui sont passés, en gros, c'est qu'il y a un rabbi juif qui est apparu en Galilée puis en Judée, hein, qui s'est présenté comme le Messie, qui a eu des prétentions étonnantes par rapport même à la moyenne des prétentions prophétiques en Israël, et qui a fini par être crucifié, et qui est ressuscité, et qui, après, il y a eu un groupe de disciples qui s'est fait autour. Voilà. Alors ça, est-ce que ça a eu lieu ou pas? Ça s'est pas passé dans un coin. Et on va voir qu'il y a une attestation profane qui est aussi de très bonne qualité. Bien sûr, moins que les écrits chrétiens. Mais enfin, d'abord les témoignages chrétiens. Alors, il y a les enseignements contenus dans les lettres de Saint Paul. Parce qu'il y a des protestants qui refusent ce qu'on appelle la canonicité, c'est-à-dire le caractère authentique et inspiré, d'un certain nombre d'écrits de Saint Paul. Hein, à partir de Luther, il y a ce qu'on appelle les deutéros canoniques, hein, et les proto-canoniques, c'est ceux qui sont connus par tous. Les deutéros, ils sont mis en doute, et évidemment, par exemple, Luther met en doute l'épître de Saint-Jacques, qui insiste sur l'importance des œuvres. Alors, on trouve aussi des arguments pour mettre en doute l'authenticité des choses qui nous gênent. On en parlait avec l'une d'entre vous. Le canon de la Bible, de la Torah hébraïque, ne reçoit pas les livres dont les originaux sont en grec, alors que certains sont de très forts appuis pour la thèse catholique que Jésus est le Messie prophétisé. Bon. Donc il y a peut-être une intention, quand le canon hébraïque a été fixé entre 70 et 130 après Jésus-Christ, c'est une intention antichrétienne qu'il a. Ce n'est pas absolument certain, mais enfin, c'est hautement probable. Bon. Mais alors, pour les protestants, c'est évident. C'est évident qu'il y a tout un texte. Voilà. Eh bien, si on lit dans les épîtres de Saint Paul, qui sont connus par tous, même par des rationalistes, les épîtres de Saint Paul, c'est les premiers écrits. On est à peu près certain que les premières datent de quelque chose comme 50, ou, enfin moi je ne suis pas un spécialiste des dates, mais c'est très tôt, hein, peut-être 45, quelque chose comme ça. Et dans ces épîtres, d'ailleurs on va voir, il semble qu'il y ait des éléments liturgiques qui sont antérieurs. Voyez, dans l'épître aux Philippiens, chapitre 2, qu'on lit le dimanche des Rameaux, lui qui était de condition divine, il n'a pas considéré comme un abus le rang qu'il légalait à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, la fameuse hymne de la kénose. C'est tellement beau, tellement rythmé, qu'on a pensé que cette hymne, qui est dans une épître très ancienne, est encore plus ancienne. Donc à ce moment-là, on aura un témoignage de l'affirmation de la divinité du Christ qui se situerait vers l'an 42-45. Donc ça, c'est absolument incroyable. Il n'y a aucune littérature qui peut prétendre à un truc pareil. Mais alors regardons ce que dit Saint Paul. Saint Paul nous dit qu'il y a un monsieur qui avait une maman, qui est né d'une maman. Un monsieur Christ qui avait une mère. Qu'il avait des frères, entre guillemets, des cousins, des parents. Qu'il avait des ancêtres juifs. Ça, je pourrais vous donner toutes les références. Dans les Galates, Corinthiens, Romains. Qu'il était fils de David, fils d'Abraham, qu'il a vécu pauvrement, qu'il a fait des miracles, et que c'est de ces miracles que Saint Paul a la force de faire les siens, qu'il a établi 12 apôtres, qu'il a établi l'Eucharistie, qu'il a été livré dans une nuit, qu'il a été immolé, crucifié, mort, enterré, ressuscité, qu'il a été vu par les disciples et par Saint Paul, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, si Saint Paul ne nous a pas raconté des blagues, il y a un gars qui a fait ça. Enfin, il pensait qu'il y a un gars qui a fait ça. Or, il y a des tas de gens qui reconnaissent la canonicité et l'authenticité de Saint Paul et qui disent « Ouais, mais l'évangile, c'est compliqué, il y a plein de problèmes, donc on ne sait pas si c'est juste. » Attends, mais c'est au moins juste dans le noyau qui est indiqué par Saint Paul. Donc ça, c'est un premier élément qui est intéressant et qui est bien développé par les théologiens. Ensuite, il y a d'innombrables citations des pères de l'Église. Je ne sais pas, dans les deuxième, troisième siècle, il y a des milliers de citations de l'écriture qui concordent avec les manuscrits, qui sont pris chez des gars qui étaient des Syriaques, des Coptes, des Latins, des Africains, des Gaulois et même des Bretons. Bon. Voilà, par exemple. Basque, je sais pas. Moi. Bon, alors, tous ces gars-là, où ils ont tiré tout, les trucs, ils ont tout inventé, tout ça concorde. C'est marrant, tiens. C'est bien, bien trouvé, hein. Bon, d'innombrables citations, notamment du IIe siècle, il y a certain Papias, donc on va citer un peu plus loin, Ignace d'Antioche, Justin, Irénée, Clément d'Alexandrie, Origène, Tertullien, et le fameux canon de Muratori, qui a été découvert au XVIIIe siècle, et qui est un texte extrêmement ancien, dans lequel il y a la liste des livres canoniques, et que l'Église a toujours reconnu. Le Concile de Trente lui a donné une valeur, je dirais, juridique, mais depuis le IIIe siècle, ou même avant le IIe siècle, jusqu'au 15e, le canon de Muratori faisait la substance du canon catholique. Parce qu'il y a des crétins, ou même des gens pas crétins, mais haineux contre le christianisme, qui viennent nous dire, oui, les livres de la Bible et tout, le canon qui date du 15e siècle. Le canon ne date pas du 15e siècle, le canon date du 2e siècle. Mais ces gars-là, ils sont vraiment profondément débiles, quoi. Moi, je serais dans un labo de sang, je les écarterais tout de suite, hein, parce qu'ils sont incapables de respecter le protocole de l'expérience. C'est ça le problème. C'est qu'en physique, en chimie et tout ça, on est obligé d'avoir un protocole précis, sinon ben, on perd son poste, hein. Et heureusement, sinon ça ne marchera jamais. Mais alors en histoire et tout, du moment que ça permet d'arriver à la conclusion, le canon date du 15e siècle. Je ne sais pas si c'est l'abruti qui a dit ça, c'est, je ne nommerai pas, mais je le pense assez fort pour que vous le deviniez. Donc. Et c'est des gars qui ont canoniquement, extérieurement le titre de catholique qui nous dit ça. C'est scandaleux, vous voyez, on nous arrache vraiment le pain de la bouche, quoi. Si le canon date du 15e siècle, bon, ben moi... Je vais me baigner dans une piscine de Coca-Cola et je vous laisse tranquille, hein, les gars, parce que... Et puis il y a les bouquins que j'ai pas le temps de lire parce que je prépare le café-caté, hein. Bon, arrêtez, 15e siècle. Alors maintenant, les non-chrétiens. Alors les non-chrétiens, il y a deux séries, il y a les juifs et les non-juifs. Et les deux témoignages sont aussi... On fait un survol vitesse Airbus 380, hein, ou Concorde, enfin bon. Mais évidemment, on part un peu dans le détail, mais enfin, ce que je dis, il y a des bouquins où on trouve les références précises. Il y a un certain Flavius Joseph, qui est un homme qui est biculturel, si vous voulez, juif, latin. Bon, si vous voulez, en gros, un collabo, quoi. Enfin, si on veut, en termes un peu trop modernes. Mais enfin, un gars qui connaît toute la culture juive, donc qui a fini par choisir après hésitation le camp des Romains et qui a écrit de façon un peu apologétique, à la fois quand même pour montrer la grandeur de son peuple et en même temps de sa résistance extraordinaire, qui est un exemple historique rarissime, hein, ce que les juifs ont pu faire aussi bien sous les Maccabées que dans cette fameuse guerre judaïque, bon, contre la plus grande puissance du monde, les Hellènes au IIIe siècle avant Jésus-Christ et les Romains en premier après. Bon, donc il décrit ça, c'est très intéressant. Alors, il est certain que Flavius Joseph, dans les Antiquités juives, hein, dans le livre 18, dans deux lieux dont j'ai mis les références, fait une allusion reconnue par tout le monde à Jean-Baptiste, et une autre au frère de Jésus, hein, donc à la parenté de Jésus en termes sémites. Ça, il ne l'a pas inventé. Alors maintenant, dans un autre lieu des Antiquités, toujours dans le livre 18, mais là au chapitre 3, il y a un passage très discuté qu'on a appelé le Testimonium Flavianum, le témoignage de Joseph, de Flavius Joseph, et qui était tellement gentil pour Jésus qu'on a dit, ben attendez, c'est interpolé, quoi. Interpolé, ça veut dire qu'on a rajouté quelque chose dedans pour soutenir la cause chrétienne. Donc, bon, j'ai la version original, hein. Par exemple, il dit Jésus, en ce temps-là était Jésus qui était un homme sage, dans la version originale, la version la plus connue jusqu'en 1972. Si toutefois on doit la considérer simplement comme un homme, tant ses œuvres étaient admirables. Et après, il y a des choses, bon, qui sont écrites et qui sont moins apologétiques, mais le fait qu'ils disent, est-ce qu'on doit, qu'un juif écrit d'un autre, est-ce que je dois le considérer comme un homme, Artum, c'est curieux, quoi. Bon. Et on s'est dit, c'est interpolé, quoi. Et alors, ce qu'on pensait pas mal de déjà avant 72, ce qu'on pensait pas mal de spécialistes, c'est que c'est tellement, il y a des passages tellement typiques qui paraissent sérieux, et ce passage disant, on ne doit pas le considérer comme un homme, qu'on s'est dit, c'est des chrétiens qui ont trafiqué un truc existant, mais qui était authentique avant. Et en 1972, des savants de l'Université hébraïque de Jérusalem, un Shlomo Pignes, a apporté pratiquement la preuve qu'il y avait un original découvert dans un texte arabe du Xe siècle d'un évêque d'Hierapolis qui lui est beaucoup plus probable et que les savants juifs considèrent maintenant, puisque c'est ce que titrait un quotidien américain, les juifs apportent les preuves historiques de l'existence de Jésus. Donc il y a un certain nombre de scientifiques juifs qui considèrent que ce texte-là est authentique. Et voilà ce qu'il dit, ce qui est quand même impressionnant pour un juif qui écrit vers... il est mort en l'an 100, vous voyez, donc il est entre 70 et 100. En ce temps-là, vivait un sage nommé Jésus. Il se conduisait bien et était estimé pour sa vertu. Nombreux furent ceux, tant juifs que gens d'autres nations, qui devinrent ses disciples. Pilate le condamna à être crucifié à mourir. Mais ceux qui étaient devenus ses disciples ne cessèrent de suivre son enseignement. Ils racontèrent qu'il leur était apparu 3 jours après sa résurrection et qu'il était vivant. Sans doute était-il le Messie, ce qui les prophètes ont raconté tant de merveilles. Alors ça, c'est déjà beaucoup plus sérieux, vous voyez. Et on voit qu'on retrouve le noyau dur de ce qu'on va voir, qu'on appelle le kérig, l'enseignement principal des apôtres. Il y a quelqu'un, un sage, ou un rabbi, ça veut dire, qui a enseigné des choses dans la ligne du judaïsme, mais les dépassant un peu, qui a fait des disciples, qui a fait des miracles, qui a fait du bien, qui a été apprécié, qui a été repoussé. Il y a un type qui s'appelait Pilate, qui lui a cherché des ennuis, il a fini par être crucifié, on dit qu'il était ajusté, je connais la son par cœur, voilà, bon. Et bien, ça, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, il y a d'autres sources judaïques, donc des développements, des commentaires, parce que à partir de l'exil à Babylone, les juifs ont beaucoup commenté, donc il y a différents... formules de ces commentaires et qui sont développés, les uns en dehors du contrôle des Romains, d'autres à l'intérieur, et donc ceux qui sont à l'extérieur sont plus facilement anti-chrétiens parce que quand on était sous le contrôle des Byzantins, évidemment c'était plus difficile, mais enfin donc on a différentes versions de la Mishnah, du Talmud, et il semble bien, il y a eu des études spécifiques faites là-dessus, que ces versions reconnaissent, je vous ai cité ici un savant agnostique ou juif, elle polémique contre Jésus et ne nie en aucune manière l'historicité des évangiles. Oui. Donc la négation de l'historicité des évangiles est très récente. Même les ennemis disaient, bon, hein, elle fait des prodiges, mais c'était le diable, ou c'était des faux prodiges. Mais oui, ils ne disent pas, il n'a pas existé. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc voilà du côté, si vous voulez, des sources judaïques. Alors maintenant, il y a les sources profanes. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Parce que, j'anticipe ce qu'on va dire sur les différentes preuves, on dit, d'accord, mais les chrétiens, leur foi, elle est fondée sur des trucs qu'ils disent eux-mêmes. Et la littérature profane, Jésus, ben, il n'apparaît pas trop. Ben, c'est vrai, mais il y a une réponse donc, que je vous donne, qu'on peut très bien comprendre si on a la foi. Pas que je donne une réponse de raison. C'est que Pascal nous dit, vous savez qu'il y a 3 ordres, l'ordre du décor avec la puissance politique, l'ordre de l'intelligence avec la puissance intellectuelle, les sciences, la philosophie, et l'ordre de la charité. Et Jésus n'a fait aucune prouesse dans l'ordre politique et ni dans l'ordre scientifique. Mais il est venu, nous dit Pascal, avec la grandeur de son ordre. Mais la grandeur de l'ordre de la charité, ça n'intéresse pas les journaux, ni les annales impériales, sauf si ça trouble l'ordre public. Mais ni habituellement les intellectuels, sauf que là, ils ont été obligés de s'y intéresser parce qu'ils ont polémiqué avec les... Parce que des intellectuels sont convertis au christianisme, et donc toute la pensée grecque est entrée en collision avec la racine juive et palestinienne, si vous voulez, du christianisme. Et donc voilà. Mais sinon, d'habitude, c'est vrai que bon, les trucs purement religieux, ça reste dans l'ordre religieux. Et donc, pour ce qu'il a fait, Jésus n'avait pas tellement à laisser une trace impérissable dans les colonnes et les obélisques de Rome ou d'Athènes, ou d'Alexandrie. Il est venu dans sa grandeur qui est la charité. Donc il a établi un message de charité, et c'était pas pour faire une pub et pour se faire connaître. Et alors maintenant, ça c'est la réponse qui est compréhensible pour quelqu'un qui a la foi. Ou quelqu'un qui la cherche, et qui dit si ce gars-là nous apporte un message spirituel, c'est normal que ce soit relativement discret. Parce que le message spirituel, c'est pas moon, hein, les gars. C'est pas forcément les fonds pour faire la pub et avoir 3 heures, une première page du Monde, 24 millions, je sais pas combien de francs pour avoir une page du Monde, ou bien 5 minutes de grande écoute, Jésus n'avait pas ça. Alors ensuite, maintenant, les témoignages profanes. Réponse. On nous dit que ce n'est pas très attesté, mais, répondent les savants, la totalité des sources de connaissances historiques de l'Antiquité, ou la quasi-totalité, a disparu. Ce que nous en savons, c'est dans Tacite et dans Suétone, en tous les deux, parlent de Jésus. Oui. Parce que les annales impériales ont disparu. Justin parle d'annales impériales, qui d'après lui faisait état du phénomène qui s'était passé en Galilée sous Ponce Pilate, mais elles ont disparu. Alors on a dans les sources, on a d'autres sources archéologiques, et puis, etc. Mais les sources principales, c'est Tacite et Suétone, qui tous les deux parlent du Christ. Donc je vous ai mis ici les différents, avec les références précises, la lettre à Trajan de Pline le Jeune, qui est de 112, qui demande des consignes, concernant les informations aussi qui communiquent. En 117, hein, Pline, gouverneur de Bithynie, écrit à l'empereur Trajan concernant les croyances, et puis les condamnations, les poursuites à engager vis-à-vis des chrétiens. Faut-il les poursuivre du simple fait qu'ils sont chrétiens ou parce qu'ils font atteinte à l'ordre public, etc. En 117, hein, nous avons cette source. Tacite, donc, qui a écrit de 69 à 117 les annales, fait également une allusion vers 116. Il y avait à Rome, en 67 sous Néron, une multitudo ingens Christianorum, une immense multitude de chrétiens, en 67 sous Néron. Les chrétiens, donc Christiani, parce que le Christus est en fait Christos, écrit là, ce nom leur vient de Christus, qui avait été sous le règne de Tibère, livré au supplice par le gouverneur Ponce Pilate. Ça, c'est noir sur blanc dans la littérature profane. Hein. Ce n'est pas une invention des patraciens de Bénitier. Alors, Suétone, qui a écrit la vie des douze Césars, comme vous le savez tous, parce que vous êtes tous très forts en histoire, hein, et donc vous savez tout ça par cœur. Donc, dans la vie des douze Césars, quand il parle de Claude, et quand il parle de Néron, il fait allusion aux chrétiens. Il dit que l'empereur Claude, donc qui a régné de 41 à 52, expulsa de Rome les juifs, devenus sous l'impulsion d'un certain Christus, une cause permanente de désordre. Et ce sont d'ailleurs, ça c'est moi qui l'ajoute, ces troubles auxquels fait allusion les actes des apôtres. Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Donc vous voyez, on a quand même une bonne attestation, au point de vue des textes profanes. Donc voilà, celui qui dit que Jésus n'a pas existé historiquement, ou qu'en gros ça s'est pas passé comme les évangiles disent que c'est passé, c'est à lui d'en faire la preuve. Si ce qu'il dit est autre chose qu'un borborygme ou un ricanement. Alors maintenant voilà, donc nous avons un texte qui est fiable, plus fiable que tous les textes anciens. Nous avons les témoignages abondants pour les chrétiens, les juifs et également les auteurs profanes qu'il y a eu un certain Christ qui a fait un certain nombre de choses. Et tous ces gens, quand ils ont connaissance des évangiles, ne les mettent pas en doute. Même, on s'aperçoit, là, je vois Messori a poussé l'étude assez loin, puisque, c'est pas Messori, c'est une certaine Madame Cerutti, dont j'ai trouvé le texte grâce à cet instrument merveilleux qui vous prend beaucoup trop de temps, et que je ne nomme pas. Et il semblerait, il y a une étude faite là-dessus, et je vous le cite simplement pour la curiosité, que le Satyricon de Pétron soit très probablement une parodie de l'évangile de Saint-Marc qui est le plus ancien. Et il est très difficile de le comprendre d'après l'auteur. Je ne soutiens pas cette chose-là comme vraie. Mais pour vous donner un peu les idées sur les choses sur lesquelles Satyricon est écrit de 64-65. Hein. Mais il y a une telle précision d'allusion à des faits qui n'ont pas de correspondant dans la littérature profane latine et grecque, qui est la source des intellectuels romains, qu'on a pensé que c'était une satire. Bon, alors maintenant, on va se dire, est-ce que ce texte, est-ce qu'il est fiable? Et ça, c'est une clé, vous voyez, parce que si les historiques, les évangiles sont historiquement fiables, historiquement, on voit, une fois historique, bon, ben, ce qu'ils disent, il faut y réfléchir. C'est-à-dire, voilà, tout, si je n'ai pas la foi, je ne vais pas forcément tout admettre d'un seul coup, mais bon, sachez de trouver une explication qui soit bonne. Alors donc, on va d'abord montrer positivement une preuve directe, et ensuite, on va éliminer les autres solutions. La preuve directe, c'est que l'évangile correspond à tous les critères des textes auxquels il faut accorder la foi historique. Et la preuve indirecte, c'est qu'il y a deux autres possibilités, c'est l'hypothèse critique et l'hypothèse mythique, qui toutes les deux s'autodétruisent. Ça, c'est la réflexion de Guiton, bien reprise par Vittorio Messori, et vraiment, je crois, très stimulant. D'autant plus que les découvertes archéologiques sont venues renforcer la démarche. Donc, Guiton a écrit en 61, Messori en 78, et depuis, on a encore fait des progrès dans la connaissance des manuscrits et du terrain. Et donc, des attestations, on a découvert archéologiquement des choses qui viennent contredire les critiques et les supercritiques comme Loisy, et les mythologues, comme un certain Couchou, qui prétendait que le Christ n'avait pas existé. Du tout. Le gars, il a fait normal sup et il devait être au Collège de France. Mais il a quand même prétendu que Jésus n'avait pas existé. Alors, chapeau les clous, c'est pas mal. C'est bon. Alors, en matière historique, bon, la certitude est morale. Évidemment, et puis il reste des difficultés. C'est pas parce qu'il y a des difficultés dans l'histoire de Jeanne d'Arc qu'on peut dire qu'elle n'a pas existé. Hein? Pourtant, il y a des trucs qu'on n'arrive pas très bien à expliquer. Mais il faut bien distinguer la difficulté et l'objection. Les objections argumentées, on peut y répondre en mettant le temps, et bon là j'aurais certainement pas le temps de si vous avez toutes vos objections, de tout répondre, mais on peut. Mais les difficultés, non. Parce que ça, la vie humaine est faite surtout dans... La foi historique, c'est les trois critères. C'est vraiment écrit pour raconter quelque chose, quelquefois d'une façon qui peut varier au cours des âges. Les critères des premiers historiens grecs, du latin, Hérodote, etc. Et puis ensuite des historiens classiques ou des historiens modernes ont un peu évolué, c'est pas forcément toujours les mêmes. Mais il faut les connaître, et chacun d'entre eux voulait raconter quelque chose qui avait eu lieu dans l'histoire des hommes. Alors, est-ce que c'est ce que les évangiles ont voulu faire? Ensuite, est-ce qu'ils connaissaient ce dont ils parlaient? Et est-ce qu'ils étaient honnêtes? Est-ce qu'ils n'ont pas voulu tromper? Parce qu'on avait mis aussi l'hypothèse, Voltaire, Nietzsche, etc., je crois, et l'hypothèse que c'était une tromperie. C'était des gars qui avaient combiné ça pour telle ou telle raison. Alors, on va voir que rien de ces trois points n'est mis en doute que ça tient pas. Bon. Premièrement, les évangélistes ont bien voulu écrire quelque chose. Alors on verra dans la page 3 que c'est un genre particulier, un genre religieux, prédicatif, sélectionnant une partie des textes, des événements, laissant tomber d'autres, etc. C'est pas des reportages, c'est très important. Il y a un titre de « Les évangélistes sont des reportages ». Attendez, pas pousser le bouchon trop loin, hein. C'est pas... Voilà, il faut vraiment s'entendre sur le mot « reportage ». Ça rapporte des faits vrais, mais ce n'est pas des reportages au sens strict du terme. Bon. Cependant, ça raconte une vérité historique. Et on voit bien, parce que quand on les lit, on dit, Jésus a fait ça, il part de là, il va là, bon, là, il guérit un aveugle, là, il ressuscite la fille de Jaïr, là, il fait ci, là, il fait ça, c'est des faits. Et puis, on voit bien, tout d'un coup, il y a Zacharie qui commence à chanter un truc, Benedictus, Dominus, etc., ou la Sainte Vierge... Non, et puis Siméon, Nunc Dimittis, maintenant laissez partir mon âme en paix, il se met à chanter un beau truc au beau milieu du temple. Il a une grande envolée charismatique, là. Mais ça se voit tout de suite, c'est un cantique. Le Magnificat de la Sainte Vierge, c'est pas une affirmation historique. La Sainte Vierge connaissait par cœur l'Écriture, et quand elle se rend compte qu'Elisabeth voit qu'elle est la mère du Kyrios, c'est-à-dire de Dieu, hein, mère du Messie, elle se met à chanter un super truc magnifique. On chante tous les jours avec. Mais on distingue très bien le cantique. Et on distingue aussi les paraboles. Hein, l'histoire des différentes paraboles, on distingue bien que c'est un genre particulier et que ce n'est pas forcément une histoire réelle. Jésus n'est pas en train de faire l'éloge d'un gars qui est malhonnête et qui a fait ci, vous voyez. Il prend un exemple pour nous faire comprendre, vous voyez. Comme on raconte une histoire ou un exemple à des enfants. Mais ça, il y a des lois, des règles plus ou moins difficiles. Alors depuis 150 ans, sous l'influence des attaques critiques, on a fait des progrès fantastiques pour caractériser ce qu'on appelle les genres littéraires, qui au début étaient un peu mal vus, et au fur et à mesure, à partir des grandes encycliques de Léon XIII, Benoît XV, Pie XI et Pie XII, il y a quatre encycliques fondamentales qui nous disent comment il faut lire l'écriture pour répondre aux attaques des rationalistes qui sont développées à partir de la fin du XIXe, et maintenant on sait comment il faut faire. Hein, on est de plus en plus fort sur ce sujet-là. Et c'est assez intéressant. Donc, on voit bien qu'ils ont raconté ça, qu'ils voulaient raconter des faits historiques, à la façon des sémites. Bon, il y a le récit de la vie et des paroles, et en plus, on voit bien qu'ils ont l'intention, Jean nous dit, il y a à Jérusalem une piscine qui est à tel endroit et qui a cinq portiques. Il a plein de précisions. Saint Jean, qui pourtant passe pour le plus mystico-dingo, pour les gens qui disent l'évangile, le christianisme a été inventé par Saint Paul et par Saint Jean. Prenez pas bien par cœur, comme ça vous aurez la base de votre petit kérigme moderno. Les modernos aussi ont leur kérigme. L'évangile était une chose inventée par Saint Paul, qui d'ailleurs était misogyne, et par Saint Jean, qui était un gnostique. Ça, d'ailleurs, Saint Jean n'est pas Saint Jean, il y a quatre Saint Jean et c'est pas lui, etc. Bon, voilà, vous savez déjà une partie du credo moderno. Tout ça, c'est faux, hein, mais bon, ça fait rien, ils répètent ça, et ils sont payés quelquefois beaucoup de Deutschmark, enfin maintenant d'euros, parce que on est tous payés en euros. Enfin, en France, on n'est pas très payés, mais dans d'autres pays, il y en a qui sont payés pour raconter leurs hérésies. Ce qui est simplement monstrueux et très ennuyeux. Mais enfin, bon. Mais c'est pour vous dire, je vous raconte des choses qui sont monnaie courante chez les modernos. Hein, c'est-à-dire que voilà, c'est comme ça, nanana, l'évangile. Le christianisme a été inventé par Saint Jean. Bon, une paire de cacs qu'il faudrait pour des gens pareils. Saint Jean, il a fait un évangile complètement historique. Il raconte des faits. Il dit, Jésus se leva et prit le bassin. En grec, il y a un article. Oui. Et tout est comme ça, c'est Saint Jean. Des choses qu'il a vues de ses propres yeux, mais des choses tout à fait concrètes et physiques. Donc il racontait vraiment. Bon, et en plus, la manière de raconter, c'est une chose très impressionnante. Par exemple, quand on lit la Passion, le jeudi saint, enfin le dimanche des Rameaux, le vendredi saint, c'est très sobre. Il n'y a pas de... Si vous comparez aux apocryphes, qui poussent des cris, qui s'énervent, etc., qui rentrent en transe, qui... Ou bien, si vous voyez, souvent la prophétie est accompagnée d'une transe, ça devient des trucs complètement délirants. Les évangiles, c'est hyper calme. Hein. C'est vraiment très sobre. Bon. Ensuite, il n'y a pas de mythe dans les évangiles. Chaque fois qu'on... Le mot mythe dans le Nouveau Testament a toujours une connotation péjorative. Saint Pierre dit, ce ne sont pas des mythes que nous vous racontons. Alors les auteurs connaissaient les mythes babyloniens ou grecs, et ils connaissaient, peut-être les cultivés d'entre eux avaient lu une partie de la mythologie grecque. Mais la mythologie grecque, si vous en avez lu un peu, ça ne se présente pas comme un récit historique. Enfin, disons, avec un petit peu d'entraînement, on arrive facilement à distinguer ça de la guerre du Péloponnèse quand même, non ? Enfin bon. Voilà, donc c'est pas, il n'y a pas d'exagération ridicule et fantastique, vous voyez. La tendance du religieux, c'est du religieux au sens comme ça natif, c'est l'exagération, c'est, vous voyez, même dans la géographie catholique, petit déjà, il était super saint, que déjà il faisait des miracles alors qu'il était en train de prendre le lait de sa maman, il faisait des miracles et tout, déjà qu'il avait 6 mois, il demandait déjà à dormir par terre, il était déjà, bon, il y a des gens pieux qui rajoutent des tas de trucs complètement... Bon, c'est des exagérations, c'est les gens bien exagérés. Je sais pas ce que ça leur apporte, parce que moi ça me rapporte plutôt des boutons. Enfin, les gens, ça leur plaît, les religieux, ils disent, des trucs. Moi c'est réel, moi c'est dans la raison, puis c'est religieux, machin truc. Ça c'est anti-pub absolu pour le christianisme, surtout pour les hommes. Hein. Enfin, pour les femmes aussi, bien sûr. Enfin, je vous dis, moi, mon exemple d'adolescent qui a perdu la foi aussi, c'est dans des contextes aussi de religion féminino-sulpicienne. Enfin, j'exagère, c'était pas ça, et c'était ma faute, d'accord, mais bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il n'y a rien de tout ça. Les évangiles, c'est cru. Fait même le type dont je disais le bouquin, là, dont je vous ai parlé le bouquin la dernière fois, sur la Terre Sainte, il dit, mais c'est bizarre, dans les évangiles, on ne sait pas à quoi ressemblait Jésus. Quand il arrive en Galilée, il n'y a même pas de description des champs, des vallées, du coucher de soleil, etc. Non, il n'y a rien. C'est incroyable, hein. Normalement, un gars, il vous met ça comme un peu en scène, hein. C'est un peu sympa de dire... Moi j'aime bien les trucs un peu les romans historiques qui sont fondés sur une histoire historique, mais à partir de l'histoire, parce qu'il y a un peu de rêve donc derrière, puis après le gars il délire, mais bon il décrit des trucs quoi. Mais là il n'y a aucune description. Et Jésus va là, il rentre dans la maison de Pierre comme si on la connaissait tous quoi. Les trucs. La belle porte, personne ne sait où elle est. Récemment on avait les cours donnés par un spécialiste des livres de la sagesse, il dit la belle porte, mais on pense que c'est la porte des brebis. Parce que si oui la belle porte, il y avait le mendiant qui était là. Et c'est vrai ce que disait le gars, c'est Régis Debray en fait, qui a écrit le bouquin. Il disait, dedans, il n'y a pas c'est pas appétissant, quoi. C'est d'ailleurs Saint-Jérôme, au début, il ne voulait pas lire le... Ça lui cassait les pieds par rapport à ses sermons, quoi. Bon. Alors voilà, les amis, hein, Irénée, Clément d'Alexandrie, Origène, ou les ennemis, comme celle chez Porphyre, ont admis le caractère historique de ces récits, même les miracles qu'ils ont tournés en ridicule après. Mais enfin, ils n'ont pas dit, c'est pas vrai, vous voyez. Si les évangélistes n'avaient pas voulu raconter une histoire... Raconter autre chose qu'une histoire, les pères apostoliques, les disciples, les parents du Seigneur auraient protesté. Et les amis n'auraient pas reçu, n'auraient pas reçu les évangiles comme ils l'ont fait, hein, avec empressement, comme une narration auquel on ne peut pas toucher. Bon. Alors, même les récits de l'enfance, alors là je ne peux pas détailler, il y a de bonnes études qui ont été faites par le père Laurentin, et puis quelques autres, pour montrer le caractère historique du chapitre 1 et 2 de Saint-Luc. Alors c'est fait à la façon des enfants bibliques, mais c'est quand même de l'histoire. Bon. Et ça, bon, c'est une difficulté particulière, je la laisse de côté. Alors maintenant, donc, ils voulaient écrire de l'histoire. Alors après, ils sont morts, parce qu'on leur disait, dites que ça n'a pas eu lieu, d'ici ça a eu lieu. Bon, si tu dis que ça a eu lieu, tu vas mourir. Donc quand même un peu impressionnant. Ça, on en parlera quand on parlera de l'Église. Alors ensuite, c'est des gens, est-ce qu'ils ont la science des événements? Eh bien, si on admet que les évangélistes, ce sont ceux qui ont retenu la tradition, hein, Matthieu, Marc, Luc, Jean, eh bien, ce sont des gens qui étaient soit, et puis après il y a les épîtres de Saint-Pierre, de Saint-Jean, quelques autres, Jacques, soit des apôtres qui ont été pendant 2 ans et demi avec le Christ, soit des disciples ou des gens qui ont connu, des gens très proches des événements. Oui. Donc, c'est des gens qui connaissaient les faits. Par exemple, Saint-Luc a fait toute une enquête, on va citer le passage où il en parle, enfin, je l'ai mis là ici, dans ce paragraphe, et en particulier, Saint-Luc est très renseigné par les femmes, la Sainte Vierge, et puis le groupe des Saintes Femmes, y compris les femmes de rang aristocratique de la cour d'Hérode qui suivaient le culte. Et donc, il dit à la fin des scènes, il dit, il y avait une telle. Sous-entendu, c'est elle qui m'ont filé le scoop. Enfin, il dit pas ça comme ça, mais c'est ce qu'il veut dire. Bon. Donc, Luc s'est informé, parce que Luc, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous qui lisez quotidiennement votre évangile, enfin, au moins une fois par semaine, le dimanche, au lieu de rien fiche, je pense, et, ou de faire des choses que vous pouvez faire ailleurs, mais vous, donc, quand vous lisez le début de Saint-Luc, il commence par dire, mais il y a déjà plein de gens qui en ont parlé. Alors moi, j'ai recueilli partout des témoins qui ont vu ça de leurs yeux. Oui. Et c'était ça le critère. Vous savez, quand Judas s'est pendu, etc., il a fallu faire un 12e apôtre, parce que 12, c'est un chiffre de perfection, il fallait un 12e apôtre. Alors on se réunit, on prie, on charismatise et tout, grand discours du chef, et puis on vote, hein, et donc il y en a... on en sélectionne deux, et puis on tire le sort, et Saint-Esprit désigne l'un des deux. Bon. Et quel était le critère pour sélectionner ceux qu'on pouvait tirer au sort? Ben, c'était des gars qui avaient tout vu depuis le baptême de Jean jusqu'à la résurrection physiquement. C'est ça le critère pour être apôtre. Et donc il y en avait deux, hein, et c'est l'outsider qui a été élu. Enfin bon, d'après le nom, il semble bien que c'était pas le plus pieux, etc. Et voilà. Et donc voilà ce qu'être apôtre, c'est ça. Et d'ailleurs, quand saint Paul, lui, est critiqué par des types qui s'opposaient à sa conception du christianisme, il dit, mais je suis un apôtre parce que j'ai vu le Christ à Damas. Donc il a une vision de Christ de gloire directement, et toute sa vie il a lutté pour qu'on reconnaisse ce titre d'apôtre, mais ce titre d'apôtre était vérifié par le contact qu'il a eu par plusieurs reprises à Jérusalem avec Pierre, Jacques, Jean et les autres apôtres, et ils ont confronté leurs évangiles pour voir que c'était la même chose. Lui, un évangile infus qu'il avait reçu du Christ, et eux, l'évangile qu'ils avaient, parce qu'ils avaient, ils ont dû parler pendant 15 jours, prendre peut-être des notes, enfin se commettre dans leur tête avec les moyens, vous savez que les sémites ont des moyens de mémorisation extrêmement impressionnants. Donc, comme ils étaient dédoués, saint Paul est un surdoué. Saint Paul vient de la ville la plus intellectuelle de l'Empire, qui est ça. Il semble-t-il était à peu près au niveau d'Alexandrie, et bien au-dessus d'Athènes, qui était nul, qui était au niveau de la Sorbonne actuelle. Donc, enfin, la Sorbonne, encore, il y a de beaux rêves. Mais, enfin, disons, là, Athènes n'était plus ce qu'elle avait été au siècle d'or, etc. Par contre, Alexandrie, ça tubait, et Tarse, c'était vraiment le carrefour de l'Orient, de l'Asie, du judaïsme et tout, il y avait une colonie juive extrêmement importante avec des droits civiques très forts, et lui c'était le surdoué qui savait la Bible par cœur, évidemment en hébreu, qui parlait l'araméen parce qu'il était de famille hébraïque, mais qui était plus à l'aise en grec. Et donc il parlait, d'ailleurs le centurion serait étonné, tu connais le grec et tu le parles bien, et en plus il était citoyen romain, bon, donc c'est un surdoué. Alors ce surdoué, eh ben, il a dû bien retenir tout ce que lui a dit Saint-Pierre, quand il est venu pour vérifier ses impressions, si j'ose dire, enfin sa révélation. Donc vous voyez, il y a une confrontation, vous voyez, de tout ça, et donc ces gens-là vérifient tout. Je vous ai mis une citation de Papias, donc un écrit non canonique, Marc, interprète de Pierre, donc tout le monde dit que Marc donc, est ce disciple qui a écrit sous la dictée de Pierre, hein, et que c'est Marc le plus ancien des évangélistes. C'est très compliqué les coordinations, mais on ne va pas le voir, le problème synoptique, comment les évangélistes se coordonnent les uns les autres, parce que saint Jean est un peu indépendant, peu importe. Marc, interprète de Pierre, a écrit avec soin tout ce qu'il avait confié à sa mémoire. Et Papias écrit ça vers l'an 130. Et alors ça, on peut ajouter à ça qu'il est extrêmement probable, alors là il y a des disputes, s'il y avait ici deux exégètes spécialistes et qu'ils avaient des navajas dans leur poche, ça serait tout de suite à couteau tiré. Hein. Il y a des bagarres sanglantes sur la proximité ou non de la rédaction des évangiles par rapport aux événements. Alors, longtemps a prévalu une hypothèse très tardive, les critiques, les mythologues et tout, on dit oui c'est très tardif, c'est au milieu du deuxième siècle, etc. Parce que pour des raisons idéologiques, ils ont besoin de temps pour que le mythe se constitue. Bon. Et maintenant on revient carrément dans l'autre sens, parce que pour les raisons qu'on va voir en démolissant les mythologues ou les critiques, et puis pour les raisons archéologiques qui militent en faveur d'une écriture assez rapide après les textes. Et en particulier Tresmontant, Carmignac, l'abbé Roland, dans les études très récentes, qui ne sont pas très bien vus par une grande partie de l'intelligentsia catholique, mais enfin quand même, militent pour dire tous ces écrits, qui viennent d'ailleurs d'une tradition orale directement à partir des événements, et dont certains morceaux pouvaient déjà être par écrit, ont été écrits entre 45 et 62, à l'unique exception de saint Jean, qui est un peu plus tardif. Bon. Mais vous voyez, 45-62, c'est extraordinaire, parce que la passion de Jésus, c'est l'an 30 à peu près, sa mort à 36 ou 37 ans, vers l'an 30. Ouais, enfin, c'est une sorte de compute, on en parlera peut-être la prochaine fois. Donc vous voyez, c'est incroyable. L'hypothèse où ça a été écrit très vite, vous voyez, c'est comme en 45, vous écrivez sur des événements qui ont eu lieu 15 ans auparavant, même si on a mauvaise mémoire, quand on est 100 types qui ont pratiquement vivent dans une culture entièrement, presque entièrement orale, qui apprennent tout par cœur, qui sont dans une population qui a le meilleur taux de scolarisation de l'Antiquité, on a fait des études précises, ça bat tous les records, vous voyez, c'est comme les mandarins d'Indochine. C'est incroyable le niveau qu'ils avaient, il y avait même cette sélection avec cette hiérarchie intellectuelle. Mais là, en plus, c'était les écoles, c'était répandu partout. Et au 1er, 2e siècle, 1er avant, 1er après Jésus-Christ, la scolarisation était énorme et les gens mémorisaient énormément. Donc que ces gars-là soient incapables de souligner ce qui s'est passé entre 15 et 30 ans avant, c'est impossible. Bon. Et alors, bon, ça, c'est l'hypothèse d'écriture rapide, que personnellement, je crois hautement probable. Il y a des tas d'arguments, en particulier le fait que le grec des évangiles. Oui, il y a des tas d'arguments qui militent dans ce sens-là, on en évoquera quelques-uns. Mais même si on admet une écriture plus tardive, c'est-à-dire sans repousser trop, mais qu'on dit non, c'est 60, 70, par là. Mais, eh bien, il est là aussi l'argument, si vous voulez, de la science des témoins et de leur véracité reste juste. Pourquoi ? Parce qu'on a démontré, en particulier le père l'abbé Grelot, donc qui s'oppose beaucoup aux thèses de Carmignac et des autres, mais il dit, même si c'est plus tardif, ce que lui pense, ce sont des textes parfaitement fiables, parce que le garant de l'authenticité n'est plus telle personne qu'on avait cru être l'auteur de l'évangile, mais c'est l'église hiérarchique dont ces auteurs ont démontré, par des études pratiquement irréfutables, qu'elle était constituée totalement dès le début. C'est ce qui est très particulier pour l'écriture des chrétiens, c'est que, comme dit Messori, c'est un bloc compact, qui est transmis par une hiérarchie homogène. Ce qui est très rare, parce que dans d'autres religions, notamment l'islam, il n'y a pas de la hiérarchie, il existe un vaguement, mais pas vraiment. En tout cas, elle n'est pas très homogène. Mais dans le christianisme est quand même immédiatement fondé sur l'apostolat et sur l'épiscopat qui succède à l'apostolat. Et donc ça, ce truc-là, il y avait les évêques, et quand quelqu'un n'était pas d'accord, il était excommunié ou racontait des choses fausses. Et donc, si vous voulez, c'est eux, si on imagine que les évangiles ont été écrits non pas entre 45 et 62, mais entre 60 et 80, c'est les évêques en place, dont certains avaient vu les événements, certains étaient des disciples immédiats des apôtres, certains étaient les apôtres eux-mêmes, comme Saint Jean, qui a vécu très vieux, qui disaient non, ça c'est juste, ça c'est pas juste. Donc c'est très important, parce que le contenu de la prédication transmet la structure, ça en parlera quand on parlera de l'évangile, non seulement le Christ mort et ressuscité, mais également l'église qu'il a fondée. Donc c'est un kit complet, si vous voulez. Tu prends tout, tu prends rien. Il n'y a pas fromage ou yaourt. Hein, on prend tout. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est intéressant. Si vous voulez, il y a une défense farouche de textes très ennuyeux. On va le voir, les évangiles, c'est pas si gratifiant que ça. Très ennuyeux pour les types qui prétendent qu'ils sont authentiques, qui sont transmis par des gens qui sont chargés de les garder. Et qui excommuniaient ce qu'on appelait les traditores, c'est-à-dire ceux qui livraient les livres sacrés aux persécuteurs. Parce que pendant 150, 200, 250 ans, l'Église est persécutée et on demande aux gens de livrer les livres sacrés et c'était un péché extrêmement grave. Donc vous voyez, ces gens qui gardent leurs livres, qui gardent leurs traditions et donc il est difficile d'imaginer qu'ils ne sont pas renseignés et qu'ils ont envie de tromper. Bon, alors maintenant, est-ce que ces gens-là sont ces gens qui sont donc qui écrivent des livres d'histoire au sens propre du terme, mais on va voir lequel. Une historicité quand même bien spécifique, est-ce que ces gens-là sont des menteurs ? Alors, eh bien, ce n'est pas des menteurs, ça vous en doutez, mais je vais essayer de vous montrer pourquoi. Parce que si c'est des menteurs, ils ont fraudé. La fraude est impossible. À partir du texte lui-même, fraude interne, et fraude externe à partir des gens qui regardent le texte. Alors, fraude interne, c'est impossible. Quel motif les auteurs auraient-ils eu de mentir ? Parce que s'ils ont inventé un Messie tel qu'ils l'ont inventé, qu'est-ce qu'ils en ont retiré ? Parce que la quasi-totalité des auteurs des écrits canoniques sont morts martyrs. Et en tout cas, excommuniés de leur famille juive, pour ceux qui étaient juifs. C'est quand même pas hyper sympa. Si vous avez fait de l'apostolat en direction des juifs, et surtout des musulmans, enfin, et vous apercevez que c'est un gros obstacle pour la conversion, à cause de l'affection familiale. On coupe les ponts, la famille coupe les ponts, si la famille est croyante. Bon, donc ils n'en retiraient rien. Et en plus, leur supposée invention, ils n'en retiraient rien que la persécution, ne correspondait pas aux attentes populaires du Messie glorieux. Elle correspondait tellement peu que Jésus a toujours fait très attention que son titre de Messie ne soit pas trop mis, vite mis en avant, qu'on appelle secret messianique, parce que ça aurait fait prendre les armes à la population. Donc on concevait un Messie, chef d'armée, qui allait renverser l'occupant romain. Et en même temps, c'est pourri l'Asmonéen, pour la branche la plus dure du peuple, c'est-à-dire ceux qui, à la suite, malheureusement les Maccabées étaient très bien, mais très vite ils ont dégénéré, et ils ont même usurpé le sacerdoce de la lignée légitime d'Aaron, et enfin ils ont fait des tas de compromis avec l'occupant, et donc les Juifs pieux voulaient les fiches en l'air, étaient assez contents si on pouvait les renverser, et quant aux Esséniens, ils avaient fait schisme avec eux. Donc vous voyez, ce qu'on attendait, c'était un mec qui mettrait les pendules à l'heure. Hein, le roi de justice, la lumière, les ténèbres écrasées, tuer tous les méchants et les écarter, la vérité religieuse va régner par le peuple d'Israël, et en même temps, ça va rentrer de l'or dans les caisses, accessoirement, si vous voulez. Mais surtout, pour les pieux, c'était que la vérité serait diffusée par différents moyens, dont le rayonnement temporel, qui est une preuve de la baraka divine, pour parler comme les musulmans, de la bénédiction divine. Donc c'est comme ça qu'ils voyaient le Messie. Alors, vous voyez le Christ qui arrive là-dedans. Ils ont inventé un Christ qui n'a pas rien fait de tout ça. Donc c'est quand même un peu ennuyeux. Donc pourquoi ils auraient inventé? Et enfin, ces gens qui nous montrent quand même l'exemple de gens qui pendant 2 ans et demi font des kilomètres, couchent par terre, vivent de mendicité, prennent des trognons dans la figure de la part des Samaritains, etc. Et qui après vont mourir martyrs de leurs 40 bistouilles, c'est quand même un peu extraordinaire de dire ces mecs-là ont fait le plus gros péché qu'on peut faire. C'est le péché du rejet formel de la vérité connue. Blasphème contre Dieu, crime religieux, impensable que Matthieu, Jean, etc. aient dit le contraire de ce qu'ils savaient être la vérité. Bon. Donc, fraude interne impossible. Moralement, pas chimiquement. Hein. Il peut y avoir des pervers cachés là-dessous qui inventent. Non mais d'accord, si c'est à ce niveau-là qu'on se situe, bah, on arrête tout de suite le café cassé. Hein. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Bon. Du point de vue externe, il y avait des témoins. Hein. L'amour en clairvoyant, mais la haine encore plus. Donc les témoins qui étaient là, hein, s'ils avaient dû raconter des choses, immédiatement, les pharisiens, qui étaient loin d'être les pires des juifs, mais qui après ont un peu mal tourné pour beaucoup d'entre eux, auraient immédiatement relevé une contradiction dans la secte juive, parce que c'était une secte juive, vous avez vu les chrétiens, par rapport à la réalité, ce qu'ont raconté les disciples, pour les déconsidérer. Puisque pratiquement, ils cherchaient des moyens de déconsidérer cette doctrine. Bon. Au contraire, les évangiles ont tout de suite été reçus avec vénération par les premiers chrétiens, lesquels avaient déjà été évangélisés par les apôtres, par les diacres, etc. Donc ces gars-là, voilà, les évangiles arrivent entre 45 et 62, pour les synoptiques, en gros, hypothèse la plus proche. Et ces gars-là qui ont déjà des petits morceaux chez eux, en tout cas qui ont dans la mémoire la prédication du diacre Philippe, de Pierre, de Paul qui est passé à la maison, qu'on a conduit au bateau pour qu'il ne rate pas sa correspondance pour Pio, etc. C'est pas une croisière dans les îles grecques comme vous en faites. Hein. Parce que bon, la navigation de l'époque... Bon. Et alors voilà, ces gars-là avaient quand même un souvenir, l'évangile arrive, ah ben c'est exactement ça. Et hop, qu'est-ce que la prochaine réunion, l'évêque Bidule dit, bon on va lire la lettre de Paul ou l'évangile de Marc avant de la gap du Seigneur, avant l'Eucharistie. Mais, donc ils ont reçu ça avec vénération, alors attendez, c'est impossible, si les gars ont fraudé. En plus, tous les détails géographiques et historiques, accessibles à historiens, sont bien en place. Alors là, c'est un truc qui est inépuisable, j'ai pas pu terminer là, parce que on en va en parler pour l'hypothèse critique, on va revenir dessus pour l'hypothèse critique. Un peu l'art du critique, c'est tout ce qu'il gêne, il dit ça c'est Pilate, Pilate il a pas existé, puis Pilate pouvait pas avoir sa femme parce qu'il y avait une loi qui empêchait d'avoir ses femmes, et puis une piscine à 5 portiques. Oh, il n'a pas 5 portiques, il se trouve par terre, il n'y a jamais 5 portiques et tout, pas de bol, on en a trouvé une. C'est que ça, vous pouvez la voir, je vous ai. Il y a une piscine avec 5 portiques, point à la ligne. Ce qu'on a appelé la révolution archéologique. Et si vous voulez, qui a foutu en l'air toute une partie de la critique. On a trouvé la preuve de qu'un rescrit impérial avait abrogé la loi interdisant aux officiers du rang de Pilate, qui avait un rang tout à fait particulier dans la hiérarchie des représentants de la puissance romaine, d'emmener leurs femmes. Là, à l'époque de Pilate, ils pouvaient l'emmener. On a trouvé d'ailleurs une inscription à Césarée Maritime qui établit l'existence historique de Pilate. Une inscription en grec, enfin, une inscription originelle. Et tout est à l'avenant. Et chaque fois qu'il dit, il y a un machin, ça marche pas bon. Et ça marche. Ça marche. Et ce qu'on a trouvé à Qumran aussi, bah plutôt dans ce sens-là, que les petits morceaux qu'on trouve, si le 7 plus 5 est juste, ça marche. Bon, en tout cas, tous les détails, vous voyez, les politiques, la façon d'ensevelir. Essayez un peu, imaginez que d'un seul coup, toutes les églises du monde soient détruites. Parce qu'il y a un super général, Goldorak, qui arrive, qui sort d'un trou de l'espace-temps, profitant de la modification de la théorie de la relativité, il arrive, plus de... C'est ce que je viens de dire dans la recherche tout à l'heure, vous n'avez pas encore fait, mais... Il arrive, pof, toute direction de toutes les églises, interdiction du latin, et toutes les langues qui sont en contact avec le catholicisme, tout le monde parle l'anglais, pas l'anglais de Wall Street, pas enfin, celui qui a la pub dans le métro, hein, que, bon voilà, restons là, donc destruction de la littérature et de la pensée humaine, tout le monde parle ce bidule-là, on pourra juste manger là. C'est, bon, mais c'est ce qui s'est passé, figurez-vous. En 70, le temple a été détruit, ce qui équivaut exactement à destruction de tous les tabernacles du monde. Ensuite, il n'y avait aucun intérêt à parler l'hébreu, hein, parce qu'ils ont se fait repérer comme Youpin, ce qui était quand même pas très bien vu, parce que l'antisémitisme date pas d'aujourd'hui, et en plus les empereurs avaient décrété des poursuites contre tous les Davidiques. Tous ceux qui descendaient de David, quoi, qu'ils avaient des problèmes avec... C'est pour ça qu'il est preuve que Saint Jean et la Sainte Vierge sont partis en dehors des limites de l'Empire romain pendant les grandes persécutions. Bon, et tout est à l'avenant. Il y a un effondrement culturel. Tout l'ancien monde judaïque a disparu. Avec la destruction du temple, et même on a passé en 70, après en 132, on a passé la charrue là-dedans, il n'en est rien resté. Très rapidement, déjà, le grec était une langue très très véhiculaire, et bon, l'hébreu était réservé aux spécialistes, il devenait encore plus rare de parler l'hébreu. Or, d'après Carmignac et les autres, il semble que Saint Matthieu ait été écrit, au moins, était en araméen, peut-être même en hébreu pour Carmignac, mais enfin, et puis en tout cas, avec plein d'araméistes, ça a été écrit par des gens qui connaissaient à fond le milieu judaïco-romain d'avant 70. Et que maintenant, nous, avec nos moyens physiques, je dirais archéologiques, on retrouve comme parfaitement authentique. Alors que pendant des siècles, on a pu se dire, oui, peut-être, pourquoi un tel poids de myrrhe et d'aloès ? Maintenant, on peut le prouver. Pourquoi une grosse pierre ? Maintenant, on peut le prouver. Oui. Donc, attendez, c'est quand même assez difficile à faire comme gag. Alors, demandez les crédits, je ne sais pas où, à la Maison Blanche, tout, détruisez toutes les églises, interdisez le latin à toutes les langues un peu culturelles, et puis revenez dans 30 ans et tâchez d'inventer un truc qui raconte, je ne sais pas... le geste du pieux chevalier chrétien qui, attendez, personne ne saura plus rien, tout le monde sera là avec des matraques et essayer de bouffer, se défendre contre des rayons et de dégénérer, et de défendre les envahisseurs du temps du truc commandement. Mais attendez, c'était con, mais je caricature un petit peu, hein, vous voyez, pour vous, vous n'en venez pas, mais il y a un peu de ça, quoi, c'est une catastrophe. Comment ces mecs-là pouvaient. Mais ils y étaient, c'est tout. Ils y étaient, ils ont tout vu, ils parlaient les trois langues de là-bas, ils connaissaient tous les détails, ils ont fait la route à pied. Contrairement à ce que dit le gars dont je vais citer le livre, hein, et ça monte, ça descend, ils savent tous les détails, et on peut très bien reconstituer, ils sont parfaitement au point de choses qui sont absolument ininventables. Hein. Voilà. Donc ce qu'on peut dire, et en plus la doctrine, on en parlera, il y aura un café-caté spécial, c'est une doctrine sublime, comme dans la thèse des critiques, ça a été inventé par quelques pêcheurs incultes, c'est quand même un peu difficile de voir les béatitudes inventées par des primates qui sortent toujours de leur caverne, ou des mecs qui savent seulement pêcher des poissons, quoi. Encore que c'est, faut le faire, quand même, hein. C'est pas si évident. Mais voilà, des mecs un peu, bon... Alors on va, si qu'on dirait, bienheureux les pauvres, attends. Et si qu'on dirait la suite, et comme ça il y en a 7 et tout. Et si qu'on dirait le chapitre 17 de Saint Jean, essayez de prendre ça avec le premier clodo métaphysique, enfin il y en a plus maintenant, mais Montaigne avait les clodos métaphysiques. C'est les gars avec qui on peut discuter de philo, ils sont des clodos. Et il y en a encore quelques-uns. Mais tâchez de lui faire réciter l'équivalent du chapitre 17 de Saint Jean. Ben, bonsoir, hein, vous allez voir. Hein. Donc ça ne marche pas. Si c'est inventé, les évangiles, et plus généralement le christianisme, sont un effet qui n'a pas de cause. Voilà. La preuve du christianisme, c'est le principe de causalité. Il faut bien que ça sorte de quelque part. Alors maintenant, donc deux hypothèses qu'on va survoler. La preuve critique, là on va vraiment la survoler parce qu'elle est complètement dans les choux maintenant. Et la preuve mystique, enfin la solution critique. Alors la solution critique, vous la connaissez bien, c'est celle du moderno de service. Enfin, du moderno service un peu rétro, parce que le moderno actuel est plutôt mythologue. Enfin, même plus, parce qu'ils sont tous dans les choux, donc il n'est plus rien du tout. Quoi. Il est super religion de Val, ouais, on ne sait pas. Tout. Alors, la solution critique, c'est la communauté croyante qui a progressivement divinisé un homme. Il y avait un homme exceptionnel, Yahshua, hein, qui était là, et il a été divinisé parce que ça faisait pouic-pouic, et que si on dirait que. Et on imagine, tiens, et on dirait qu'il est ressuscité, etc. Et même on dirait qu'il a fait ça, parce que ça nous fait du bien. Et là, en fait, il n'y a pas eu d'apôtre, tout ça. Il y a eu une communauté croyante, des mecs qui se sont réunis, et on a démontré que l'imagination de ces types-là, elle est supérieure à tous les jeux de rôle que vous avez joués dans votre vie débile. Hein. Ça, c'est, je vous assure. Hein. Jamais, mais c'est hallucinant. Hein. Personne ne peut inventer un truc pareil, surtout si vous êtes juif et que vous avez étudié votre catéchisme, pas pierre vivante. Hein. Le vrai catéchisme de la synagogue qu'on apprend par cœur, et si tu te trompes sur un iode, paf, tu prends un coup de règle du sacristain, voilà. Donc la bonne ou vieille méthode d'autrefois, quoi. Enfin d'autrefois, il y a très longtemps, très avant même la guerre de Vietnam, vous voyez. Bon, parce que moi j'ai pas pris tout le règne, il faut que je sois mon catéchisme. Mais alors vous voyez, donc imaginez les mecs, c'est impossible, quoi. C'est, moi ça m'a déjà, avant d'avoir étudié pour ce café caté, je trouvais qu'ils étaient cons comme des manches. Ils sortaient des trucs pareils. Qu'une réunion de type, en remuant la sauce pendant 100 ans, et réussir à sortir à chapitre 17 de Saint-Jean, bah pour toi. Et que le type qui dit ça puisse rester vivant, ben c'est ça que... C'est quand même qu'on est vachement gentil. Non mais attendez, arrêtez, il faut... C'est impossible, puis c'est tout, quoi. Bon, en plus, il y a un truc qui va pas, c'est que les juifs ne peuvent pas diviniser un juif. C'est impossible. Demandez au père de Menache, demandez au père dominicain qui sont convertis du judaïsme. Comme le père de Menache, justement, qui a traduit pour la Bible de Jérusalem le livre de Daniel. Par les 14 ans, dont justement, c'est le livre de Daniel. Et bien, il dit, on n'imagine pas, il y a aussi un autre père, Pierre. Le père juif converti dominicain, qui a dit, les chrétiens ne s'imaginent pas la difficulté que représente pour un juif pratiquant l'affirmation de la divinité du Christ. C'est une montagne qui est infranchissable aux forces humaines. Il n'y a que la grâce qui peut vous faire passer par-dessous ou par-dessus la montagne. C'est impossible qu'un homme soit divinisé. Or, on a la preuve que 10 ans après la mort de Jésus, le kérigme appelait Jésus Kurios, c'est-à-dire Seigneur. Le nom qu'on réservait aux empereurs divinisés. Donc il y a quand même un schmilblick intéressant là. Vous voyez ? Donc c'est impossible, vous voyez, qu'on divinise, un juif soit divinisé, c'est impossible. Comme disait la mère de Edith Stein au moment où elle a senti qu'elle se convertissait complètement, elle a continué à aller à la synagogue avec elle au début, etc. Il y a eu un beau prêche et tout, puis en revenant à la synagogue, sa maman lui dit, mais Edith, tu vois, c'était beau, n'est-ce pas la prédication ? Il dit, oui, c'était magnifique. Ah ben tu vois qu'il y a des bonnes choses. Ah ben oui, bien sûr, il y a des bonnes choses dans le judaïsme. Et ah, parce que tu comprends ton Jésus, il est plutôt bien, mais quand même, pourquoi fallait-il qu'il se proclame Dieu? C'est ça la difficulté. Mais le point de difficulté est là. Donc que c'est des juifs qui inventent ça, c'est quand même un peu difficile. Et puis les passages les plus anciens, reconnus comme les plus anciens de l'évangile, qui sont des passages de chapitre 2 et 3 de Saint-Marc, et des lettres que tout le monde reconnaît comme authentiques chez Saint-Paul, montrent que Jésus donc a été aussitôt considéré et prêché dans le kérigme comme un homme qui a les attributs de Dieu. Par exemple, dans Saint-Marc, Jésus remet les péchés. Et les Juifs disent, il n'y a que Dieu qui peut remettre le péché. Donc attendez, ça s'est fait tout de suite, quoi. C'est ça le problème dans l'évangile. C'est qu'il n'y a pas une espèce de gradation. Il y a un gars qui apparaît, il va se faire baptiser par Jean-Baptiste, et il commence à prêcher des trucs très forts, parce que c'est vraiment, on verra, dans la tradition judaïque, mais en même temps, il n'y a pas de progrès, quoi. Même entre la réponse de Jésus au temple et la dernière parole sur la croix, c'est toujours « je suis ». Mais c'est quand même un peu surprenant. Et donc c'est ça qu'il faut expliquer. Donc c'est pas les croyants qui sont passés du Christ de l'histoire au Christ de la foi. Et en plus, ces prédicateurs, alors là, c'est un autre argument qui à mon avis est absolument insurmontable, ces gars sont en train de nous tromper, enfin, nous tromper comme des modernos, quoi. Est-ce que les modernos nous trompent? Comment faut voir la foi, c'est un autre ordre, c'est pas la foi et c'est pas la raison, raisonnance, machin, la foi, c'est la foi. Je sais pas, c'est que la foi du moderne, Et alors, donc ces gars-là sont en train de nous raconter des trucs qui ne sont pas historiques. Donc ils ont besoin de notre confiance. Et bien ils font tout pour qu'on ne leur donne pas. Ils racontent tous leurs défauts, tous les chefs foutent le camp, le chef principal trahit, ils ne sont pas malins pendant 2 ans et demi, ils ne comprennent pas le messianisme, ils disputent entre eux. Bon attends, pourquoi tous ces détails sont là-dedans? C'est quand même un peu bizarre. Donc ils en disent trop, tous leurs défauts, et en plus ils se mettent pas d'accord. Pourquoi ils font pas tous les trois, hein, Marc, Matthieu, Luc, ils se copient tous en même temps, sous la dictée de Pierre, et on fait 3 copies, et on dit c'est la copie de Matthieu, la copie de Marc, et c'est tout pareil. Et bien un flic qui voit ça dit, ils ont triché, tout est concordant, donc c'est qu'ils ont triché. Non, moi je connais deux religieux qui sont anciens gendarmes, et puis ils m'ont dit c'est évident qu'on est dans une déposition. 2 trucs sont un peu longs, hein, un peu plus d'une ligne et demie, où c'est exactement les mêmes mots, les mecs se sont mis d'accord. C'est ce que dit d'ailleurs Lagrange, reprenant une vieille phrase d'un penseur grec, présocratique, mieux vaut un accord substantiel et implicite et caché qu'un accord trop apparent. Parce que l'accord, lui, il est fait par la réalité même des choses. Et là, il y a plein de difficultés de concordance dans les synopsies. Mais si vous demandez, si vous connaissez 3 sœurs, 4 pendant Saint-Jean aussi, ou frères, leur maman vient de mourir, ils en parlent. Chacun raconte son truc, chacun raconte des histoires de la maman. Et bien c'est tout différent, et tout le monde dit, ah ben c'est vraiment elle. Et bien, je prends un frère, vous donnait tout à l'heure là, un exemple, je vous faisais un peu de ça, et on fait une promenade entre nous, la promenade fait de temps en temps comme on a fait. Et puis le soir à la récréation, ou quelqu'un après le dimanche, on lui raconte la promenade. 3 fois à dire, raconte, c'est 3 promenades différentes. Et c'est la même promenade. Mais l'histoire, c'est ça. Si vous aviez les mecs qui avaient dit mot à mot, attends, non, point, virgule. Non, là, il y a un iota souci, attends. Ça marche pas. Donc il y a plein de difficultés, mais je veux dire, pourquoi plein de difficultés? Parce qu'ils sont forcés par le réel. Ils laissent subsister, ils n'ont pas le droit d'y toucher. Tout ce qui les embête est dans le texte. Et en particulier, qu'ils sont des nuls. Il y a trop. Il y a trop peu, parce qu'il n'y a pas de solution sur la fondation de l'Église, sur la circoncision, tous les trucs sur lesquels on va se battre pendant 100 ans après, ils ne mettent pas la solution dans le bouquin. La solution, elle y est, c'est les apôtres, la solution est le Saint-Esprit. Mais elle n'est pas écrite. Elle est développée par les apôtres. Donc il y a quand même un vrai problème. Donc existe la solution critique, hein. Il n'y a pas le Christ de l'histoire et le Christ de la foi, c'est la même personne. Dans la dernière feuille, je vous ai mis les fameux textes de Saint-Pédis et de Jean-Paul II, pour vous montrer qu'on n'a pas abandonné la doctrine, qui pulvérise la distinction du Christ de l'histoire et du Christ de la foi. Et puis la solution mythique, alors là, c'est des gens qui ont démoli les critiques, ils se démolissent très bien l'un l'autre, les critiques les démolissent les mythiques, et les mythiques les critiques, et qui ont dit non, 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 il n'y a eu personne dans l'histoire, Jésus n'a pas existé, mais c'est des gars qui ont objectivé leurs désirs. Donc ils ont fait un mythe. Alors là, les mythiques, il leur faut du temps, eux. Alors, en fait, cette hypothèse se heurte à beaucoup de choses, et entre autres à ce que je viens de vous dire. Nul ne peut contester, comme l'écrit Messori, la parfaite description donnée par l'Évangile du monde judaïco-romain d'avant la destruction du temple de Jérusalem en 70. Donc, c'est pas un mythe, c'est une histoire. C'est pas un truc qu'ils ont inventé, c'est une histoire. Et en plus, on peut ajouter une chose que je crois extrêmement importante, c'est que la valeur du Nouveau Testament et l'existence historique de Jésus-Christ ont été reconnus par les plus grands esprits de l'humanité pendant 18 siècles sans aucune interruption. Alors on a commencé peut-être au 17e, si vous voulez, quand même, à émettre des doutes, par antichristianisme, certains, et puis surtout l'explosion, c'est 19e siècle. Mais pourquoi? Ben, c'est assez simple, c'est un problème philosophique. C'est parce que la pensée idéaliste rentrant chez les chrétiens, d'abord chez les protestants, ensuite chez les catholiques, par eux, par Loisy, eh bien, a pulvérisé le réalisme fondamental qui est le suppôt indispensable de la foi. C'est pourquoi j'ai mis le texte magnifique de Paul VI, hein, dans la quatrième page, à savoir que l'intelligence atteint la réalité, et si vous pensez que l'intelligence atteint des phénomènes, évidemment, le Christ de la foi, c'est un phénomène que vous produisez vous-même, et que vous plaquez sur un certain substrat qui existe peut-être, mais qui n'est pas intéressant. Mais... Donc Paul VI a bien relevé en 68 dans son credo, elle dit attention, l'intelligence atteint la réalité et elle peut atteindre non seulement ce qui est métaphysiquement, mais elle peut atteindre le sens d'un texte avec la critique interne et la critique externe. Et en fait la grande crise qui secoue l'église chrétienne et plus spécialement catholique depuis 150 ans est une crise à l'origine philosophique. C'est une crise de la métaphysique, ça, Ratzinger l'a souvent réaffirmé, une crise de la métaphysique, la mise en doute des fondements même de la raison, qui fait que, par idéologie, si vous voulez, on a commencé à faire une chose qui est... C'est pour ça que Saint-Pédis a dit le modernisme, c'est l'égout collecteur de l'hérésie. C'est la réunion de tout. C'est pas une hérésie précise, parce que c'est une maladie mentale qui fait que ben, vous construisez le réel. Donc la communauté primitive a construit le Christ comme elle le voulait, ou comme elle le souhaitait. Mais ça correspond aux aspirations de l'homme, il y a des tas de nuances. Mais enfin, c'est pas objectivement la réalité critique. Alors je vous ai mis in fine la doctrine de l'Église pour que vous ayez donc ce que je vous ai dit là par la raison, c'est une affirmation de foi. Un chrétien qui dirait les évangiles ne sont pas historiques, il est sorti de la foi catholique. Mais ça je le gardais pour la bonne bouche, histoire de vous empêcher de dormir ce soir. Hein? Ou le copain si vous allez raconter ça. Enfin même si vous n'avez pas la foi, vous avez vu quand même qu'il y a quand même des arguments de raison et que l'Église finit par affirmer un caractère certainement historique des évangiles, mais d'une historicité tout à fait spécifique. À savoir que, c'est les textes que j'ai mis à la fin, les apôtres n'ont pas fait un script uniforme, ils ont exagéré la passion, et la résurrection, ça occupe le sixième de la vie de Jésus, ils ont laissé tomber certains événements, mis en lumière d'autres, chacun avec son accentuation, et pour prêcher de façon à susciter la foi. Mais ça ne veut pas dire que ce n'était pas historique. Ils prêchent à partir de la réalité, dans leur flamme de prédicateur, donnant des choses vraies, mais présentées à la façon d'une prédication. L'Évangile est d'abord une prédication, mais une prédication d'un fait historique. Je vous remercie de votre attention. Bien, allez-y pour les questions.
Question à propos du prévu Joseph dans le texte découvert par les savants de l'université hébraïque. Est-ce qu'on met sans doute était-il le Messie?
Oui, sans doute, parce que Joseph, si vous voulez, il était de culture judaïque. Mais ce n'était pas un super croyant, si vous voulez, au point de vue du judaïsme. Il était assez compromis avec l'hellénisme. Donc il dit, bon, bah. Parce qu'à l'époque, quand il écrit, le christianisme, on commence très nettement à se séparer des autres groupes juifs, mais ce n'est pas aussi net que ce qui a eu lieu dans le courant du deuxième siècle. Donc ça peut, il peut mettre sans doute, bon. Parce que le Messie, le gros problème, on en reviendra quand on parlera des prophéties, c'est que, à partir de l'an 130, disons, les juifs qui n'ont pas reconnu le Christ n'avaient plus de Messie à se mettre sous la dent, si j'ose dire. Donc il a fallu prendre une position par rapport au problème messianique. Donc c'est une chose qui les a préoccupés, soit le Messie c'est le peuple juif, soit c'est il va venir, mais c'est pas comme on l'avait pensé, mais ça on en parlera quand on parlera des prophéties. Mais il semble bien que le texte de Shlomo Pignès donne ce... Voilà. Enfin le texte est un texte qui vient d'une recension arabe du 12e siècle. Pierre, la question de Pierre.
Est-ce qu'il faut considérer les évangiles comme des œuvres apologétiques? Parce qu'en fait, c'est surtout par rapport aux témoins de Jéhovah. C'est-à-dire que les témoins de Jéhovah, ils vous disent, attention, le Christ n'était pas Dieu. Ils lisent le prologue de Saint Jean, ils disent, le Verbe était Dieu, ça ne leur suffit pas. Et j'ai eu le cas de témoins de Jéhovah, en fait, qui en gros me disaient, mais attendez, si Christ c'était Dieu, quelque part dans l'évangile, on dirait Saint Paul qui dirait, attention, oui. Le Christ c'est Dieu avec...
Oui, mais là... Les évangiles sont apologétiques, mais c'est une prédication, quoi. C'est pas, il y a un élément apologétique, mais la prédication, c'est un peu différent. Si vous avez des gens qui prêchent, en plus, les apôtres faisaient des miracles. Hein. Donc ça aide la prédication. Ils prêchent à un peuple qui est préparé pour ça, d'abord, en soulignant l'accomplissement des prophéties, on va le voir la prochaine fois, et ils prêchent aux Romains, aux Grecs, soulignant les éléments de loi naturelle qui sont repris par le christianisme, mais le but c'est de dire voilà, nous on a vécu ça et on vous en parle, quoi. Et l'ascendant de leur conviction, joint à la grâce de Dieu, provoquait des conversions. Alors il y a un aspect apologétique, certaines fois ils argumentent, mais tout n'est pas dans les évangiles. C'est justement ça le propre du christianisme, et si on parle de l'église l'année prochaine, on soulignera ça, c'est que les dogmes ne sont pas formellement tous, enfin, ils sont formellement en affaire, mais ils ne sont pas explicitement tous écrits dans l'évangile. C'est la rencontre, si vous voulez, de la révélation faite par le Christ avec la réflexion des hommes qui explicite toutes les données qui sont dans l'évangile. Et à mon avis, c'est un argument en faveur de leur vérité, parce que ça montre que la révélation s'adresse aussi à l'intelligence de l'homme. Jésus, j'ai fait tout un café-café pour montrer. Donc, si on admet l'historicité de l'évangile, que Jésus a lui-même affirmé en termes équivalents sa divinité. Mais pas en termes métaphysiques comme ceux du Concile de Nicée. Vrai Dieu n'est de vrai Dieu, etc. Ça a été. Si vous voulez, c'est ça qui est magnifique dans le christianisme, c'est que le christianisme, c'est la raison qui accueille Dieu. Il faut que la raison accueille Dieu, parce qu'on peut toujours discuter, vous voyez. S'il n'y a pas une instance, donc les conciles et les papes, pour nous dire, voilà, cette réception de la parole de Dieu par les hommes est juste. Celle-là est fausse, on serait perdu. Parce que regardez les protestants, ils n'ont pas d'unité dogmatique. Même les anglicans, qui sont pas en un sens les plus proches de nous, il y a des grandes variations entre les différentes branches de cette église. Parce que si vous n'avez pas... La particularité de l'évangile, c'est qu'il dit, dans l'évangile, vous avez tué Pierre, et c'est sur toi que je vais bâtir la suite. Mais, ça, c'est dans l'écriture. Et Pierre, ensuite, vient nous dire, ben, le sens de la parole de Jésus devant Sanhédrin, je vous le déclare, vous verrez le Fils de l'homme venir à la droite de la puissance qui combine deux prophéties du psaume 109 et de Daniel chapitre 7, est une affirmation de divinité. D'ailleurs, quand il dit « avant qu'Abraham fût, je suis », bon, l'Église nous dit, ça veut dire qu'il affirme qu'il a préexisté, qu'il est Dieu.
Mais donc le fait qu'à aucun moment dans les épîtres, il est clairement en termes...
Quand il dit dans l'épître aux Philippiens, lui qui était en morphée tout est où, ça veut dire qu'il était dans la forme de Dieu.
peux aussi dire que quand quelqu'un profane lit les épîtres, il n'est pas forcément frappé par le fait. Moi, je me rappelle d'avoir mon enfant, si je lisais le texte.
Oui, mais ça prouve bien qu'il faut quelqu'un pour l'interpréter, parce que voilà. Là, je viens de vous le dire en grec, mais si vous ne connaissez pas le grec de la Koinèse, ça ne vous dit rien. Elle m'en fait tout c'est où, je m'en tamponne. Ça ne veut rien dire. Et donc, il y a des gars, qui sont les apôtres et tout, qui veulent connaître et tout, et qui sont insistés pour vous dire quand saint Paul dit ça, ils vivent la divinité du Christ. Parce que si vous voulez, je crois qu'on peut dire d'une façon générale qu'un texte seul ne peut pas. Si Dieu fait un texte, il fait une botte d'emploi. C'est évident, parce que chez les hommes, aucun texte ne subsiste, si vous voulez, n'est autosuffisant par rapport à la richesse vivante d'une intelligence. Donc il faut également une autorité vivante, éclairée par Dieu, pour expliquer ce texte. D'ailleurs, vos témoins de Jéhovah, ils se fondent sur je ne sais quel bonhomme qui n'est pas non plus explicitement dans l'évangile. Qui est apparu en 1850 et qui est enterré dans une colline où il est tout complètement encore plus invraisemblable que ce qui nous paraît curieux dans les évangiles. Mais il y a une partie apologétique, mais je crois qu'il faut dire que les évangiles, c'est d'abord une prédication. Oui, allez-y.
Vous pouvez nous dire à quel moment et comment ont été choisis finalement les quatre évangiles et les autres finalement
séparés? Presque dès le début. On peut considérer que au milieu du deuxième siècle, la Canon Muratori, je ne sais pas si c'est deuxième ou troisième siècle, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, l'évangile, c'est ce que je disais tout de suite, c'est un texte et des hommes. Et les hommes sont capitales, c'est les hommes qui ont fait le tri, parce qu'ils avaient l'assistance du Saint-Esprit. Parce que d'abord, ils avaient été témoins, tu vois, Saint-Pierre, il voit l'évangile où le petit Jésus claque dans les mains pour faire des oiseaux en plate qui s'envolent. Alors il dit, Pipo, tu vas repasser, hein. Et le gars, il a été scratché et son évangile, zéro. Personne n'a reconnu. Pourquoi? Parce que l'évêque à qui Saint-Pierre avait téléphoné par la poste impériale, il dit, attention, il y a des malades qui disent que Jésus a claqué dans les doigts pour... Et donc c'est l'Église qui a fait le tri.
On n'a pas une date ou un concile, quelque chose qui aurait défini justement...
Le concile de Trente, mais c'est un peu tardif, hein. Ça fait le 15e siècle, le 16e siècle. Le concile de Trente a établi à cause des négations de Luther. Mais si vous voulez, le problème, c'est que quand on définit les choses de façon très solennelle, c'est qu'elles sont contestées, alors qu'avant elles sont possédées par le magistère ordinaire universel. Toute l'Église catholique recevait, depuis le 3e siècle, le 2e siècle, c'était au maximum au milieu du 2e, cet ensemble de textes. De même que, par exemple, l'existence de Dieu est-elle définie par un concile? Eh bien non. Le Vatican a défini qu'elle est, qu'on peut y atteindre par la raison, mais il ne définit pas Dieu existe. Parce que tout le monde, parce que voilà, le magistère ordinaire universel l'enseigne, on ne va pas non plus faire une définition dogmatique, le pape qui est en train de me parler existe. Il y a un minimum de bon sens, mais l'Église c'est un ensemble de gens qui sont là pour nous conduire au salut. Donc il y a des ils enseignent des trucs pour le salut, et ça ne peut pas être faux. S'ils considèrent vraiment, ils enseignent en disant ceci est dans l'Évangile, et que c'est faux, bah, c'est que le Christ vous a trompé. Alors après, on va établir des tas de critères, canoniquement, vous serez excommunié, vous ne serez pas. Et actuellement, on a affaire à un christianisme très juridique, enfin, même chez les tradis, ou surtout chez eux, ou chez une autre partie un peu juridique de l'Église, dans lequel on oublie, si vous voulez, un peu, cette dimension vivante de l'Église. Saint Augustin, comment il est arrivé à condamner les erreurs des autres? Il a dit que securus judicat orbis terrarum, c'est-à-dire, les gars d'Afrique disent ça, mais le monde entier dit autre chose, pour tel point de doctrine. Même qui pourtant avait été tenu par des grands évêques très saints et morts martyrs, point faux de doctrine, et ben non, il a dit, non, l'Église entière nous dit que il ne faut pas rebaptiser de soi les hérétiques, etc. Et donc, c'est quoi? C'est comme ça l'infaillibilité. C'est quelque chose de beaucoup plus vital que... C'est pas une simple... Parce que maintenant, on a un peu une conception que l'infaillibilité, c'est un truc à restreindre au maximum pour me laisser le maximum de liberté. Alors que c'est exactement le contraire. Et donc, même actuellement, même je crois que le magistère actuel depuis Jean 23... jusqu'à Benoît XVI inclus, essaye peut-être de pas trop faire d'infaillible. Mais on va être obligé d'en faire. Enfin, je vous parle de 3 000 $ qu'on va en faire, peut-être même avant ma mort. Parce que c'est le seul moyen de sortir de certaines crises. D'ailleurs, Jean-Paul II lui-même en a fait à propos de la non-ordinabilité des femmes. Il a défini infailliblement que l'Église n'a pas le pouvoir de donner le presbytère à des femmes. Alors que c'était vraiment pas la tendance de la curie, parce qu'on n'aime pas dire des trucs infaillibles. C'est pas œcuménique, ça peut gêner les gens, c'est infaillible, oulala, donc je suis pas libre et tout. Au contraire, c'est infaillible, donc je suis libre. Parce que je sais que c'est vrai. Et bien là, l'Église, l'Église a dit, bon ben voilà, ça voilà les Écritures, ça c'est authentique, ça ne l'est pas.
Le travail de Saint Jérôme,
alors le travail de Saint Jérôme, alors c'est un martyr de la vérité scientifique, parce que il était au contact, il a appris l'hébreu en payant très cher un rabbin pour lui apprendre. Il dominait le latin, c'est un homme très cultivé, le latin, le grec bien sûr, l'hébreu et le chaldéen. Donc il a collectionné tous les manuscrits, et il a vérifié si ça allait bien, il l'a ramené parce qu'il y avait beaucoup de manuscrits différents en latin, et donc il les a tous ramenés sous certaines formes, sauf les psaumes qu'il n'a pas réussi à retoucher parce qu'on a trop crié. Donc dans les psaumes on a pratiquement un décalque au latin du grec de la Septante. Mais donc, et Dieu, il est très précieux, parce qu'il y a quelque chose qui est dans Saint Jérôme. Lui, il a eu des manuscrits, et lui, il a fait un travail fabuleux pour nous trouver les meilleurs textes et les meilleures sources. Et bon, là, il y a une difficulté qui est résolue, là, elle n'est pas résolue. Mais voyez, la vérité de l'ensemble n'est pas compromise par une difficulté sur le verset, sur le coma joannique. Est-ce que telle phrase de tel épître de Saint Jean, il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, etc. On se demande si ça vient de Saint Jean ou pas. Ce qu'on est sûr, c'est que ça vient du Saint-Esprit. Voilà. Et bien, la vérité de l'ensemble n'est pas compromise par des difficultés locales. Parce que c'est différent pour le Coran. Pour le Coran, vous avez des sourates qui sont d'une période, de Médine, et d'autres qui sont de la Mecque. Et en fonction de cette période, elles sont beaucoup plus agressives anti-juives, anti-chrétiennes, dans la deuxième période qu'avant. Et la plupart des théologiens, si j'ose dire, musulmans disent les versets les plus récents, pour autant qu'on peut le savoir, sont abrogeants. C'est-à-dire qu'ils abrogent les autres. Et donc c'est la partie la plus djihad, si vous voulez, qui demeure. Et donc vous voyez, c'est très différent, parce que là c'est sur le fond des choses, quoi. Quel est le positionnement du chrétien ou du juif par rapport à la soi-disant révélation de Mohammed, tandis que nous, c'est sur vraiment des broutilles qu'il y a des difficultés. Pas des broutilles, mais des difficultés réelles, mais il y en a 15 et elles sont petites. Alors le problème actuellement, c'est qu'on a fait d'énormes progrès, disons, dans les langues, mais je le vois parce qu'à Rome, ils n'arrivent plus à trouver des élèves au biblique. À Jérusalem, on ne trouve plus de candidats pour aller à Saint-Étienne, c'est dominicain, à cause de l'effondrement métaphysique et de l'absence de formation des prêtres. Parce qu'il ne suffit pas de connaître le grec, l'hébreu et tout ça, il faut aussi être capable de mettre de l'ordre comme ça dans sa tête. Et donc... ça, c'est un des gros problèmes, et je pense que quand on fera la jonction, c'est-à-dire quand la métaphysique reviendra, on va carburer à fond, parce qu'on a des soutiens positifs comme on n'en a jamais eu. Avec l'ordinateur, avec les progrès qu'on a fait, avec les découvertes sur le terrain, et quand il y aura la conjonction de la sagesse qui va revenir difficilement, mais qui revient dans les décennies qui viennent, et de tout ce travail positif, à ce moment-là, on cartonne à fond, et c'est magnifique. Enfin, c'est ma petite idée de Dr. Prigley.
Revenir sur la véracité pure des évangiles.
Oui.
Simplement, vous parliez tout à l'heure de Stephen, pas que lui, je ne suis pas sûr, mais
oui.
qui a donné des faits historiques et mais sur ordre, enfin, qui a écrit à la demande, disons, d'un empereur, donc en donnant un point de vue qui était favorable à la politique de cet empereur.
Oui.
C'est
possible, oui.
On se croit de nous, par exemple, après, j'ai critiqué un peu non, mais. La Révolution française, on nous l'apprend d'un certain point de vue,
oui,
avec une présentation qui veut être en faveur de la révolution. Est-ce qu'on ne peut pas supposer, alors ça reste des suppositions, mais imaginer que les apôtres, tout en s'appuyant sur des faits historiques, un homme, comme disait
oui.
Peter, un homme qui était particulièrement merveilleux, etc.,
voilà.
Aurait. Pour ajouter
le côté divin. Ben ils peuvent pas, je crois qu'ils peuvent pas. Ils peuvent pas parce qu'ils sont pas d'accord entre eux. Je vois dans les évangiles, ils sont pas d'accord entre eux et ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens intellectuels parce que la synthèse qui est sortie des quatre évangiles dépasse toutes les, si vous voulez, tout ce qui était courant, même de meilleur, si vous voulez, par l'enseignement du rabbin qui a formé Saint Paul, Hillel, je crois, ou Gamaliel, qui a dit des choses extraordinaires, mais le christianisme est imprévu, si vous voulez, par rapport à la théologie judaïque. Donc dire qu'il est Dieu, c'est se mettre d'accord, c'est une association de malfaiteurs, quoi. Ben, on peut pas. Non, on peut pas. On peut le dire, mais à mon avis, on peut pas. Parce qu'historiquement, si vous dites, c'est. Si par exemple, vous dites. Parce que Suétone, si vous voulez, quand il écrit, ben, on voit la part de l'influence impériale. Il dit un groupe de gens qui s'agitent, bon, d'accord, qui mettent du désordre, ça serait gentil, et qui viennent d'un certain Christos. Alors on voit un peu, mais chez les évangiles, comment vous voulez faire au départ? Les évangiles racontent une histoire, ils disent, il y a un gars qui a dit ça. Alors après, comment vous allez. Parce que les critiques ont cherché à le faire. Et quel intérêt aurait-il eu à le faire, les apôtres? Qui leur aurait donné l'idée de le faire? C'est ça, parce que quand on affirme quelque chose comme ça, il faut trouver une cause. Qu'est-ce qui les aurait motivés? Parce que, vous voyez, je crois que ça, c'est des objections de chrétiens apostats ou agnostiques, mais post-chrétiens. C'est Grenan, par exemple. Vous voyez? Ils disent, ils ont imaginé qu'il est Dieu, sous-entendu, parce que c'est sympa qu'il y ait un homme qui soit Dieu. Enfin, même un apostat pense un peu tard, parce que le Régis Debray, dont je vous ai parlé du bouquin, là, à la fin, il dit quand même que le christianisme, c'est ce qu'il aime le mieux, quand même. Bon. Parce que bon, on voit bien que ça a certains avantages à ce que Dieu vienne visiter l'homme. Mais ça, c'est une idée impensable pour un grec ou pour un juif du 1er siècle après Jésus-Christ. C'est nous qui projetons notre idée, disant donc il a inventé. Mais non, si vous mettez dans le contexte de l'époque, il ne peut pas inventer ça. Il peut inventer le Messie, si vous voulez, des Esséniens, ou le Messie, le maître de justice des Esséniens, ou un Messie glorieux, mais pas un Messie qui va se faire crucifier. Parce que vous voyez, dans votre hypothèse, il faudrait expliquer pourquoi s'étant entendu pour dire qu'il était Dieu, après il s'entend pour dire qu'il est mis à mort et que personne ne reçoit sa doctrine. Bon, on en reparlera quand on parlera des prophéties. Mais c'est vrai, je comprends, il y a une difficulté, hein, mais je crois qu'on peut assez bien voir, si vous prenez l'ensemble de l'évangile, ils ne peuvent pas avoir inventé l'ensemble.
Non, mais pas justement, pas l'avoir inventé.
Ben, je pense pas, parce qu'il aurait fallu que, je vous dis, on a la preuve, si vous voulez, même par des écrits non chrétiens, que la prédication du Christ touchait des centaines de personnes. Et s'ils avaient rajouté des aspects polémiques, ça aurait été relevé, mais par les adversaires qui n'avaient qu'une idée, c'était d'étrangler la secte. Vous pensez qu'on a perdu tous les témoignages?
Dans le cas de ces hommes de la rue des Arceaux, c'est pas arrivé, il y a toujours un groupe pour
vérité. Oui, attendez, mais pour la Révolution française, prenons, ce qui est discuté, c'est les intentions, mais sur le noyau des événements, on arrive quand même à peu près à savoir ce qui s'est passé. Bah, je sais pas, quand même.
Il y
a certains éléments qui sont discutés, mais en gros, qu'on est passé d'un régime à l'autre, on est à peu près d'accord. Et Louis XVI était vivant et qu'après, il était mort, et pas de façon naturelle, quoi. Même vacciné qu'il était. Il était le premier vacciné de France. Mais donc, voyez, bon, là, je caricature, mais ça pourrait au maximum être sur des choses qui n'auraient pas d'impact sur l'essence du message chrétien. Qui est qu'il y a un type qui s'est prétendu Dieu, qui est mort. C'est ça qui est. Déjà, le premier truc est impossible pour un juif. Mais le deuxième, il est encore plus. Et qui après est ressuscité. Donc, voyez, on n'arrive pas à trouver une cause suffisante à ce fait-là, dans l'hypothèse critique. Alors qu'évidemment, qu'ils aient rapporté avec bienveillance ce qu'a fait Jésus, qu'ils aient laissé tomber certains éléments et tout, mais ce qui est frappant, c'est qu'ils ont mis les éléments qui compliquent le problème. Par exemple, la chute de Pierre, pourquoi est-elle rapportée de façon splendide partout? Pierre était le chef de tous les gars à qui cet évangile était lu. On dit, votre chef, c'est un salaud de salaud, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est à peu près du niveau de Judas ce qu'il a fait. Et c'était raconté partout, et encore plus par Marc qui écrivait sous sa dictée. Alors il y a un vrai problème. Je crois que si vous voulez, quand vous allez de très près, c'est ce qu'a fait Guiton, et Guiton, je crois, partait aussi de l'agnosticisme. Lui, je crois qu'il a dû mettre 30 ans, hein. Les Tories, ça a été 10 ans. Et vous imaginez tout, et puis il réunissait des intellos, et il discutait, et bien on s'aperçoit que toutes les hypothèses arrivent à des impasses. Une dernière question. Une avant-dernière.